Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Salut à toutes et à tous, merci d'être avec nous. L'after intégrale Coupe du Monde jusqu'au bout de la nuit, vous le savez, vous en avez l'habitude. En direct de New York, suite des huitièmes de finale aujourd'hui, 5 juillet 2026. À mes côtés, ils sont rentrés en France, vous le savez, depuis 48 heures. Monsieur Daniel Riello, mon oncle new-yorkais. Salut Dani.
Salut les amis, ça va?
Oncle Sam,
bien
oncle Dani,
bien à New York.
Bah, tu manques, hein. Ah. Tu manques, vous manquez tous. C'est un peu la fin de la colo, hein, une colo studieuse, mais c'est plus pareil maintenant sans vous. On a enlevé la moitié des micros déjà, je me sens un peu seul. Et puis il y a mon Huckleberry Finn à moi, l'ami Tom Sawyer. Walid Acharchour est là. Salut Walid.
Salut Nico, salut tout le monde.
Ça va Walid?
Ça va très bien, bien rentré. On a encore un peu jet lagué, mais.
Ouais, je te cache pas qu'on n'est pas. Mais... on a beau régler. Ouais là, c'est bizarre, le jet lag, faut s'en remettre. Ouais, hein. Il a une petite mine, et moi aussi. Hein.
Mais ça va.
Enfin là, je vois. J'ai mon retour vidéo, je vois qu'il était chez le barbeur à 15 euros et pas à 60 dollars.
Oui, c'est vrai que le barbeur à 60 dollars plus 20 euros de tips, plus 20 dollars de tips, ça fait un peu mal, ouais, effectivement.
Est-ce qu'il t'a raconté comment il a suivi Argentine Cap Vert quand on était ensemble, hein, debout dans l'allée là.
Ouais.
Avec Walid un peu en retard parce qu'il a fait une petite sieste.
Ouais.
Bouche ouverte.
Ouais, je fais une petite sieste.
Dans l'avion, toujours lui.
J'ai fait une petite sieste bouche ouverte puisque j'ai pris mes médocs.
Il laisse rentrer les idées et les habits tranchés. C'est pas ça qu'il ouvre la bouche.
J'ai pris mon petit spray pour dormir et je me réveille et là je me dis, je vais voir tout le monde qui est regroupé. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que l'Argentine c'était une formalité. Et non, prolongation 2-2 et on a suivi toute la prolongation ensemble.
On l'a vu débarquer sur un écran là et tout. Il était coincé dans l'allée par le chariot des repas.
À 5 sur un écran, toutes les 20 secondes, la dame qui disait excusez-moi, on peut passer.
Vous avez pas hurlé, évidemment, je vous connais. C'était très discret.
On se reculait, ça brillant. On faisait avant, arrière.
Mais c'était très très délicat.
Ouais.
J'allais voir la dame, j'ai dit c'est bon.
En tout cas.
En plus, les petits déjeuners sont surcotés, on va se calmer.
On salue nos amis d'Air France, évidemment. On a un magnifique programme aujourd'hui, évidemment, les 8e de finale, la suite.
Tout sur le Wi-Fi, on va pas remercier le Wi-Fi 100%.
Ouais, 25 euros le Wi-Fi, on n'a pas eu. Moi, j'ai pas eu de Wi-Fi.
Enfin, 25 euros pour 5 personnes, ça fait 5 euros chacun, tout va bien.
Il n'y a que Jimmy qui a réussi à se connecter. Nous, on a un peu galéré et on nous a dit que pour le Wi-Fi, le nom de la compagnie, c'était plus Air Chance.
C'est pas mal ça.
Air Lucky.
C'est pas mal.
Brésil-Norvège à 22h. Énorme match, très ouvert. Qui sera le favori? On va en parler. Mexique-Angleterre. Là aussi, hein, la question se pose. Qui sera le favori?
Franchement, les deux matchs du jour. Mais franchement, ils m'excitent vraiment de fou.
Lequel le plus, Daniel?
Mexique-Angleterre en 1. Mais vraiment, Brésil-Norvège est à peine derrière. Les deux m'excitent vraiment.
Pourquoi Mexique-Angleterre en 1?
Parce que ce que j'ai vu du Mexique depuis le début de la compète vraiment m'enthousiasme complètement. Leur jeu, la générosité, c'est sans retenue, ça attaque, ça presse. Et je veux voir ce que ça donne. Ça m'a évidemment beaucoup plu contre l'Équateur, mais je veux voir ce que ça donne contre une équipe de grand standing. Et que l'Angleterre, depuis le début de la saison, m'a plus déçu que plus. Et je me dis que si vraiment ils doivent avoir de l'ambition de cette Coupe du Monde, c'est le soir de le montrer. Et le montrer à l'Azteca contre le Mexique dans l'ambiance de folie. Si les Anglais se sortent de ce match, alors les Anglais redeviennent une équipe solide comme je le pensais au début de la compète. Mais si ça reste ce qu'ils ont montré contre la RDC, notamment un match que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs, Angleterre-RDC, ça passera pas contre le Mexique. Donc il va falloir qu'ils élèvent totalement leur niveau. J'attends beaucoup de ce match-là.
Dans un stade aztèque en fusion, Edgar Grelot est déjà sur place.
En plus,
c'est la folie apparemment à Mexico.
Le match un peu drama, quoi.
Voilà, on va en parler bien sûr, surtout du Brésil-Norvège. Le coup d'envoi, c'est dans moins de 2 heures désormais. On parlera des Bleus, retour sur la qualifiée contre le Paraguay. Un match pugilat, sale, comme l'a qualifié Mbappé. Les Bleus ont-ils réussi leur plus gros test hier depuis le début du Mondial? Daniel, toi tu affirmes qu'il ne faut surtout pas critiquer l'approche musclée, agressive, sans volonté de jouer des Paraguayens hier. C'est ce qu'on a entendu de manière très générale. Et bien Christophe Dugarry, il fait partie des gros critiques à l'encontre du Paraguay. Il sera là pour débattre avec toi. Vous n'êtes pas d'accord du tout. On parlera également de Manu Koné. A-t-il gagné sa place au détriment d'Aurélien Tchouaméni pour le quart face au Maroc? Et puis Walid, ton avis, si l'Espagne gagne contre le Portugal demain, tu vois les Espagnols favoris pour la victoire finale? C'est parti pour l'after intégrale Coupe du Monde. Fabrice Hawkins est avec nous en direct de Boston, membre de la cellule équipe de France. Salut Fabrice.
Salut à tous.
Petite voix, Fabrice. Ouh, ça commence à tirer, j'ai l'impression. Non, ça va?
Non, ça va.
Toujours flegmatique, Fabrice Hawkins. Lieu du prochain match des Bleus Boston, bien sûr, contre le Maroc. Ce sera jeudi à 22h, un horaire décent. Les Bleus sont revenus chez eux, hein, Fabrice. Hein. C'est le lieu de villégiature pour l'équipe de France. Quelle ambiance, quel état d'esprit?
Bah, ils sont heureux, forcément. Ils sont vraiment contents. C'est ce qu'on disait depuis hier. C'est la première fois depuis le début de la compétition qu'on les voit sourire. On n'a pas vu de poste encore de cette équipe de France en mission. Le masque presque très concentré déjà sur la prochaine rencontre comme on avait l'habitude de le voir depuis le début de la compétition. Là, ils ont vraiment exulté, ils étaient contents. Ça a été très très dur et on l'a ressenti justement. Ils ont pu un petit peu décompresser, fêter ça avec les supporters, les fans qui étaient là, qui étaient présents hier à Philadelphie. Et encore une fois, on sent vraiment une équipe de France qui est heureuse d'avoir franchi ce pas. Non pas que le Paraguay soit un épouvantail, mais ça a été vraiment dur. Pour la première fois, ils ont dû batailler jusqu'à la dernière minute. Et donc forcément, là, ils sont vraiment contents de pouvoir se tourner tranquillement vers le quart de finale.
Contents et soudés, encore plus qu'ils ne l'étaient, Fabrice, les Bleus. Hein.
Oui, parce qu'ils sont battus les uns pour les autres sur le terrain, même presque physiquement. Didier Deschamps, on l'a révélé, a demandé à certains joueurs au coup de ses pieds finales d'aller prêter main
aux
titulaires, notamment et à Kylian Mbappé. Ah oui, vraiment.
C'est West History,
parce qu'ils sentaient que ça pouvait, vraiment dégénérer, parce que il y avait des provocations de part et d'autre. Eux avaient perdu en plus les Paraguayens, donc forcément ils étaient un peu dégoûtés. Et déjà qu'ils mettaient des coups quand ils perdaient pas. Alors imaginez-vous à la fin du match, toute la tension qu'il pouvait y avoir. Donc ils sont vraiment encore plus soudés les uns aux autres. Kylian Mbappé l'a dit avec ses mots à la fin du match. Ils savent mettre les mains dans le cambouis, ils savent se battre, ils savent ne pas jouer propre aussi. Donc ça c'est aussi un bon enseignement pour la suite.
Il y a l'image aussi forte de Ousmane Dembélé qui protège le point de pénalty pour Kylian Mbappé, un ballon d'or qui protège le point de pénalty. Vas-y.
Je l'ai trouvé parfait, moi, Kylian Mbappé, dans sa déclaration post-match.
On va l'écouter, tiens. Ouais. Vas-y, on l'écoute, on l'a, Kylian Mbappé, on va l'avoir. Vas-y, Valide.
On l'a pas.
On va l'avoir dans quelques secondes.
Non, mais moi, je l'ai trouvé vraiment parfait parce qu'il a pris toute la mesure du rendez-vous, d'un rendez-vous pas facile. Et j'ai trouvé encore une fois dans son discours et même dans son comportement sur le terrain. Autant j'ai vu un ou deux joueurs rentrer dans le jeu des Paraguayens, lui, alors qu'il y avait un contrat sur lui, sur le match, à plusieurs reprises. Il a eu beaucoup de sang-froid et ça montre encore une fois le caractère de champion qu'il a dans cette compétition. Il y a beaucoup de grands joueurs qui ont déjà pété les plombs, on va pas les citer, dans l'histoire du football et du football français. Et hier, c'était vraiment pas facile. Et jusqu'au bout, il a été parfait.
Bon. Moi, j'ai eu le sentiment, Daniel, finalement, que dans un match pas footballistiquement vraiment intéressant, que cette victoire, en fait, elle aura fait du bien ailleurs. Au mental, dans l'idée de se battre les uns pour les autres, de, comme il l'a dit, effectivement, on l'a dit dès hier soir, l'analyse de Mbappé, elle est au-dessus de la mêlée, comme d'habitude, dans l'idée de, en gros, comme il l'a dit très simplement, mettre les mains dans la merde et montrer qu'on est capable de faire plein de choses. Donc, si elle a eu une importance de ce point de vue-là, tant mieux pour les Bleus. Nous, devant la télé, je vais pas dire que j'ai vibré parce que j'ai pas douté une seule seconde que la France finirait par s'en sortir. Même si il avait fallu aller à la prolongation, je pense que petit à petit, il s'en serait sorti. Donc, footballistiquement, je vois pas bien quel enseignement ils peuvent tirer de ce match-là. En revanche, oui, je crois que parfois les équipes ont besoin de ce genre de match-là. On parlait hier soir du match de tennis d'un premier tour d'un grand champion qui se sort d'un piège. Il était pas bien prêt, il était pas en forme.
Non, le vrai terrien Sudam que tu prends au troisième tour.
Et lui, il envisage d'aller loin.
Le roi de Monaco,
il se sort d'un match qui a fait chier tout le monde. Mais à la fin, il en sort plein de confiance. Il se dit, j'ai réussi à aller au-delà, alors que le mec a deux niveaux en dessous, parce que le Paraguay c'est deux niveaux, trois niveaux en dessous des Bleus à tout point de vue.
Et c'est sûrement un match que tu ne retrouveras pas parce que
on va en parler de ça, bien sûr.
Il y aura pas de
c'est circonstanciel dans un tournoi, donc
et ça j'ai l'impression dans toutes les déclarations, personne n'a parlé de football hier soir. Et je peux comprendre que ça arrive dans un parcours. Il n'y a rien à dire à ça. Il n'y avait pas d'analyse football à faire de ce match-là. Les seuls éléments qu'on a cherchés, c'est fallait-il mettre Doué plus tôt ou dès le coup d'envoi, qui me semble être des discussions discussion accessoire au final. Tout a tourné autour de comment on a résisté, comment on n'est pas tombé dans le piège, comment on n'a pas répondu, comment, je sais pas, il y en a pas un qui a pété un câble pour prendre un carton rouge, comment, voilà, c'était ça.
Et si ça fait plaisir, ça permet
d'être solide. Eh ben tant mieux, c'est bingo, bravo à eux,
Écoutons Kylian Mbappé justement. La déclaration de Mbappé après la qualification à laquelle tu faisais allusion.
On a montré qu'on n'était pas seulement une équipe qui savait jouer en football offensif. S'il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde. Désolé de l'expression. On n'a pas de problème avec ça. Ils pensaient qu'on allait venir jouer en smoking, qu'on allait juste venir faire des belles actions des 1-2. Nous, on sait faire le sale football aussi. Et on l'a fait aujourd'hui, on a gagné. Et même dans ça, on a été meilleur qu'eux.
Ouais, c'est fort.
Moi, je trouve ça très, 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 très,
au Brésil. Il demandait en conférence de presse hier, mais qu'a-t-il voulu dire exactement? Est-ce que, parce que à la télé brésilienne et notamment en Amérique du Sud, en fait, eux l'ont pris un peu de manière arrogante en disant ah d'accord, donc en fait eux disent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Alors qu'en fait c'est pas réellement ce qu'il dit. Simplement ce qu'il explique, c'est qu'ils pensaient qu'ils allaient jouer le beau football et que finalement ils ont su batailler. Mais c'est vrai que cette déclin là elle a été mal comprise ou mal prise dans certains pays d'Amérique du Sud.
Comment on doit le comprendre, c'est que le Paraguay a offert une équation et que cette équation là elle a été résolue par l'équipe de France, mais d'une autre manière. C'est pas le style de jeu de l'équipe de France et on devait être aussi rassuré. C'est la force des grandes équipes pour avancer dans un tournoi, et cette équipe de France là a montré que il y avait pas que le beau geste, il y avait pas que la fraîcheur, il y avait pas que la qualité technique, le talent, qu'ils étaient aussi capables de faire autre chose, et surtout dans la résistance cognitive. Moi je parle des défenseurs, notamment Lucas Digne, Koundé et Upamecano, Saliba. En fait ces mecs là avaient tout à perdre sur un match pareil, on l'a vu contre l'Allemagne, parce que déjà 0-0 c'est une équation qui est dure à résoudre. Alors si tu prends un but sur coup de pied arrêté, on l'a vu avec l'Allemagne, alors là t'es mort. Donc même ça, sur le peu de situations qu'avait le Paraguay, tu devais être très très vigilant, ne pas rentrer dans ce rapport de force, et ça fait partie des vertus que tu dois avoir dans un tournoi, et ils l'ont eu hier, donc bravo à eux. Et maintenant on passe à autre chose, parce que on aura vu que le tournoi va avancer et que les équipes vont sûrement fermer le jeu, mais pas à ce point là cette équipe de France,
on le verra plus à Walid, oui. Le Maroc évidemment, non, en quart, c'est question post-pose, ça n'aura rien à voir.
Non, mais aussi caricatural, non, déjà parce que il faudra voir le comportement qu'a eu le Paraguay, mais bon, ça on en parlera avec Daniel qui voudra en parler. Mais oui, je pense qu'il y a des équipes comme le Maroc, je suis pas sûr que le Maroc ait le ballon contre la France, ou en tout cas ils vont pas l'avoir comme contre les Pays-Bas, ils vont sûrement le laisser pour essayer de fermer les espaces, mais je suis pas sûr que ce soit aussi exacerbé, parce que là le Paraguay ils étaient sur le parking de Philadelphie, quoi. C'était là, ils étaient pas noirs. Il y a bloc bas et bloc bas, il y a bloc bas et ce que tu fais aussi entre les séquences de jeu. Moi je pense qu'on reverra plus jamais ça.
Mais vous avez trouvé, Daniel, que les Bleus ont vraiment joué sale, comme l'a dit Mbappé. Est-ce qu'il n'exagère pas un petit peu aussi?
Non, eux, je vois pas en quoi eux ont joué sale. Non, eux, ils ont essayé de développer leur jeu. Ils ont résisté. Après, à la caméra, on voit pas s'ils rendaient les coups. On a vu.
Il y a eu deux trois temps.
Il y a eu des petits coups aussi quand ils ont gagné 1-0. Et c'est là où je suis pas tout à fait d'accord d'ailleurs avec Walid, parce que quand ils ont mis le premier but, il y a eu des coups aussi. Mbappé, il a mis des coups aussi. Il a fait exactement la même chose. C'est là où aussi ils disent, on était meilleurs que.
Ils ont rendu ça.
Exactement.
Ça n'a pas semblé si évident que ça à l'écran. Mais ils ont certainement rendu, et si Mbappé l'a dit, oui, c'est probablement que... Non, mais il n'y a pas eu que ça. Alors, on a vu des images, le mec, tu peux pas te faire insulter pendant une heure sans répondre. Si les joueurs de l'équipe de France ont répondu aux insultes, si on est sur un terrain de foot, on va pas se laisser faire, quoi. La seule folie qu'il fallait pas faire, c'est se lever bousculer, mettre une gifle et tout, en gros, tout ce qui peut conduire à un carton rouge. D'avoir évité ça...
Il n'attendait que ça allait paraguayen.
Parce que le gars... Ouais, voilà, mais en même temps, c'est ça qu'ils ont voulu.
Moi, j'ai eu peur de Barcola, mon frère. Mi-temps, après le carton jaune, j'avais peur qu'il traîne un peu la patte, qu'il laisse une
d'ailleurs,
semelle.
À un moment, on n'a pas été complètement loin. Et d'ailleurs, les Paraguayens ont poussé là-dessus en demandant à l'arbitre si c'est la deuxième et tout. Ouais. Rappelons quand même qu'une finale de Coupe du Monde, c'est en partie joué sur un événement de ce genre-là, avec un joueur qui est pourtant une légende du foot français, qui n'a pas su résister à ça. Donc, Dieu sait que ça peut coûter cher. Là, ça aurait été en huitième. Bon, la marche sur le Paraguay, elle restait quand même importante. Mais je ne sais plus à quel moment on est de l'éventuel deuxième carton de Barcola. Oui, ça aurait été un handicap pour les Bleus.
Il fallait être très très fort, hein, parce que si
il faut, ça, ouais, bien sûr, ça fait partie du truc.
S'il y a des noms d'oiseaux, s'il y a les mamans,
bien sûr.
Il y a eu l'histoire avec Didier Deschamps,
bien sûr, sur
les bancs. Il faut être très très solide dans ce type de match, parce que
exactement,
c'est des équipes qui sont prêtes à tout pour te faire disjoncter.
Ils ont une culture du prêt à tout pour gagner. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs des différences culturelles. Qui sur un terrain, soit t'acceptes, soit t'acceptes pas. Si t'acceptes pas, vas-y, va te battre. Tu vas pas finir le match et puis tu fais une carrière perso, mais fais de la boxe ou du tennis. Mais là, pour ton équipe, tu vas pas. On est 11 et moi je pète un câble sur le terrain, je réponds, je prends carton rouge et je vous abandonne juste parce qu'il a insulté ma mère ou ma sœur. Je suis désolé, je me sens pas être un héros à répondre. J'aurais le sentiment de vous avoir abandonné. C'est toujours le sentiment que j'ai eu d'ailleurs par rapport à 2006. Et c'est un truc qu'il fallait pas faire. Il y a pas, t'es sur un terrain. Si l'autre, en plus, il le fait exprès, on n'est pas dans la rue, tu vois, c'est pas un combat de rue, tu vois, c'est.
Mais je pense que tu sors grandi de ce match-là dans ces aspects.
Je suis d'accord.
Et ce qui se passe autour de l'équipe de France depuis le début de la Coupe du Monde va dans ce sens où tu sens le groupe c'est pas un poncif. À chaque match, il y a une vraie.
À chaque match, on a des preuves du fameux poncif où le groupe vit bien.
Exactement. Voilà.
On a les preuves.
On a les preuves. Moi, ce qui est marrant dans ta remarque aussi, Fabrice, c'est que Deschamps a envoyé des costauds. Vraiment, on est dans l'ambiance d'un combat de rue, justement. On envoie les malabars sur la fin de match pour sécuriser
les malabars.
Les titulaires.
C'est Upamecano et
Konaté. Non, c'est un remplaçant qui l'a envoyé. Mateta notamment.
Ah, il y avait Konaté.
Mateta,
il
peut faire un
videur
de boîte.
Oui, j'avais Konaté.
C'est les physios, quoi. Allez, les physios, allez-y.
Commencez pas. C'est ça votre problème.
Mais non, plaisante. S'ils nous écoutent, évidemment, on s'amuse.
Non mais c'est vrai. Non mais l'anecdote est totalement vraie. C'est-à-dire que
excuse-moi, non, mais en plus sur le banc, quand vous dites que Lucas Digne en termes de gabarit.
Ouais, mais est-ce qu'il fait peur parce qu'il a visage tout doux,
N'Golo Kanté.
N'Golo, c'est pas toi.
Ouais.
Même Zaire Emery, quoi, tu le vois pas, quoi.
Exactement.
Je crois que ça s'appelle une affaire de gabarit, en fait.
Après, attention, les petits, Daniel, nerveux, il met des bourre-pifs bien placés.
D'accord, évidemment, mais devant l'entrée, tu mets souvent un grand costaud.
C'est vrai qu'il y avait des scènes hier assez marrantes, la fin de match avec Mbappé mort de rire, calé un peu les trash-talkés.
Attends, avec Dembélé qui rigole quand l'autre il va creuser le point de pénalty. C'est une scène que j'ai trouvé fantastique.
Ouais, c'est vrai qu'il y avait des scènes.
Ça veut dire qu'ils avaient à ce moment-là le recul nécessaire pour ne pas s'énerver. Mmh. Et ça, c'est preuve d'une grande maturité.
Ils ont réinversé le rapport de force mentalement. Ouais,
c'est une vraie maturité.
Deschamps les avait prévenus aussi. Hein. Ils ont fait une réunion avant la rencontre où il leur a bien expliqué qu'il ne faudra pas tomber dans le panneau. Pour le coup, Didier Deschamps, il a énormément d'expérience en tant qu'entraîneur et surtout en tant que joueur sur ces situations-là. Et il leur avait dit, ils vont essayer de vous faire dégoupiller. Ce sera leur seul objectif. Il leur a vraiment prévenu. Donc, je pense qu'il aurait très mal pris aussi à titre personnel si l'un d'eux était sorti, même si c'est jamais évident, évidemment, en temps réel d'avoir les bonnes réactions. Mais il aurait eu un petit peu mauvaise parce qu'il leur avait dit exactement comment ça allait se passer.
Vous avez des matchs dans l'histoire comme ça aussi tendu
Je crois que j'ai un Allemagne-Croatie à l'Euro 96. Je sais pas si tu l'as encore en tête.
Et avec l'équipe de France, un match aussi.
À l'époque, c'était tellement plus permis dans les années 80 que des matchs comme ça, il y en avait.
Il y en avait beaucoup. J'ai 32 ans, j'ai jamais vu un match aussi.
Même le match d'ouverture Argentine-Cameroun de 90, très honnêtement, ils doivent finir à 8, les Camerounais. C'est une boucherie, ça partait dans tous les sens. À l'époque, on sifflait beaucoup moins les fautes. Bon, ouais, ça existait plus.
La finale Copa América, la Argentine-Brésil en 2021, Covid, là, où ça a été, c'était une boucherie.
Ouais,
mais des deux côtés. Mais c'était plus des deux côtés, Sud-Am, etc.
Ne serait-ce que les PSG-OM 92 au Parc des Princes.
Je parlais plus dans l'équipe de France l'équipe de France qui vit ce type de.
T'as raison, Walid.
Tu vois, j'ai pas
de référence.
Parce que Paraguay 98, c'est pas ça.
Non, ça résiste beaucoup, mais il n'y a pas ça.
Moi, je faisais allusion à Allemagne-Croatie, qui est un match fou avec un rouge pour Steve Match, quart de finale de l'Euro 96, avec un Christian Tsigeu, je sais pas si vous vous rappelez de lui, qui avait la peau crevassée, la brosse, qui était un furieux, quoi. Bref, c'est un souvenir. Tiens, Farid est avec nous au 32-16. Farid, supporter de l'équipe de France, salut.
Bonsoir Nico, bonsoir Daniel,
salut,
bonsoir Walid.
Salut.
Bon, raconte-moi, t'as aimé ce combat hier sur le terrain?
Sérieusement, j'ai aimé le sentiment de force, de rapport de force qui est ressorti de ce match et qui a tourné à notre avantage. Et par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est parce qu'on on met tout là sur le fait que le score soit resté très longtemps jusqu'à la 70e minute de jeu à 0-0. Mais on met tout sur le fait que le Paraguay a super bien défendu, et ça, bon, tout le monde s'y attendait. Il avait déjà prouvé contre l'Allemagne, ils sont capables de très bien défendre, très bien casser le rythme adverse. Ils sont capables de mettre un joueur dans les triangulations adverses et casser les rapports de zone. Mais par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est l'animation offensive. J'ai pas pu écouter votre débrief hier du match, car je vous avoue que je me suis endormi juste après le match. Mais l'animation offensive hier, j'ai pas trouvé que c'était le système de jeu adéquat qui a été utilisé pour taper cette équipe de Paraguay bien plus aisément. Et même dans les mouvements, dans les jeux de combinaison, tout ça, j'ai trouvé vraiment que ça grinçait, qu'il manquait quelque chose.
Bah, c'est pas, je sais même pas, s'ils étaient 5, 6, 7, c'est très compliqué de produire, oui, du jeu dans ce cas-là, quand t'as des mecs qui sont à ce point défensifs, qui serrent tous les marquages, qui sont en bloc compact aussi bas, des animations offensives qui réussissent, t'en as très très peu, quoi. Tant que le premier but n'est pas marqué, t'as aucune ouverture.
En fait, je dis ça. Ouais. Je dis ça par rapport pour la suite de la compétition, parce que tu sais, il y a des équipes, ils vont pas forcément jouer en 5-4-1 comme le Paraguay hier.
Mais c'était même pas 5, c'était une ligne de 6 quasi.
Ouais, ils ont une dimension physique différente individuellement. C'est-à-dire que même une équipe, bon, je sais pas, par exemple, le prochain adversaire c'est le Maroc. Il me semble que le Maroc évolue en 4-3-3, mais avec un double pivot devant la défense. Et juste ce bloc de 4 défenseurs et le double pivot. Vu que ce sont des joueurs supérieurs individuellement sur un plan physique et sur un plan tactique, cette difficulté offensive que tu as eue hier contre le Paraguay, même si le Maroc défendra avec un ou deux joueurs de moins, tu peux la retrouver.
Non, mais tu sais,
les Marocains sont capables de venir te gêner dans ton jeu.
Vas-y, Daniel.
Non, mais quand tu as
Daniel te répond, Farid.
Quand tu as de ce.
Écoute, Nico.
Quand tu as ce
vas-y,
genre
vas-y,
de.
Vas-y.
Quand tu as ce genre de configuration-là, c'est-à-dire que tu te casses le nez pendant une heure parce que t'arrives pas à passer, parce que c'est solide en face, qu'ils en ont mis 6 ou 7, ou après c'est beaucoup une affaire de patience. Oui, mais bon, ne jamais oublier, et c'est là où il faut rester calme, c'est que eux ils font rien. Donc si eux ne te font rien, à toi de pas perdre patience pour trouver les décalages, faire entrer si t'as des joueurs qui sont capables de provoquer, comme ça a été le cas hier pour Désiré Doué. Mais j'ai envie de te répondre, mais et alors quoi? Tu mets du temps, ton animation offensive elle est un peu stérile, t'arrives pas à pénétrer, ok très bien, mais eux qu'est-ce qu'ils te font? Ils te font pas mal. Donc qu'est-ce que tu vas redouter, le contre, le braquage? Bon, moi je vois pas ce qu'il y a d'inquiétant.
Hier j'avais quand même l'impression que les Paraguayens pouvaient jouer 3-4 jours avec Upamecano et Saliba.
Jamais,
la gestion de la profondeur des deux, c'était
voilà, c'est pour ça que je comprends pas trop ton
après,
inquiétude.
Après tu parles du Maroc, le Maroc
ouais,
avec Brahim Diaz, avec Brahim Diaz, avec Raimi, avec ces joueurs là, avec El Khanous, ils ont
tu les vois changer tactiquement le plan, le Maroc.
Non, mais ils ont la qualité aussi de projeter très très vite vers l'avant avec plus de qualité individuel.
Ce sera pas la même chose.
Et on l'a vu en deuxième mi-temps contre le Canada, ils ont été très cliniques en transition.
Oui.
Donc eux pour le coup, s'ils veulent jouer bloc bas et aller nous chercher un peu plus haut, ils ont cette capacité là.
Sauf que pour jouer bloc bas, il va falloir être solide. Je suis sûr que leur charnière centrale
on va en parler,
elle soit si solide que ça.
Et on l'a vu hier,
oui, on va en parler.
Et surtout ça voudrait dire changer des choses dans ta compo, ça veut dire perdre toi en qualité pour renforcer ta défense. Très honnêtement, au Maroc, il faudra faire un choix. Moi, je pense que si j'étais à leur place, j'essaierais pas de changer.
Bon, non,
peut-être une ou deux adaptations. Oui, et encore.
Juste milieu. Ils ont la capacité de faire.
Oui, mais ce serait quoi le juste milieu? Genre, tu sors Boadi pour mettre Amrabat au coup d'envoi, un truc comme ça.
Boadi est pas extraordinaire sur les deux
matchs.
Je
suis d'accord. J'en ai parlé hier. C'est la seule question que je me suis posée par rapport à l'éventuel changement.
C'est une possibilité. C'est une possibilité.
Amrabat. Voilà, les gars. On va en parler encore. On va prolonger.
Ici, en cours de route, comme ils l'ont fait d'ailleurs hier, en fonction des événements.
Après, hier, tu fais la même chose.
Merci, Serge, les gars.
Hier, tu fais la même chose en mi-temps face à
parce que je suis à distance que je vous laisse plus de liberté. On va faire une pause. On va remercier Farid d'abord. Fabrice Hawkins également. Merci, Fabrice.
Oui, ça simplement.
Vas-y.
Petit mot sur le carton jaune de Michael Olise, parce que
eh oui.
ça reste comme ça et qu'il prend un carton jaune là contre le Maroc, qui pourrait être suspendu pour une éventuelle demi-finale. Donc on va surveiller ça, mais la FFF pourrait porter réclamation devant la FIFA pour annuler ce carton jaune qu'il a reçu Michael Olise. On sait que la FIFA a annulé le carton rouge de Balogun, qui était
parce
beaucoup
que là,
plus net.
Ouais.
Donc ce sera à suivre.
Là, ça hurle le complot ici aux États-Unis sur l'annulation de la suspension de Folarin Balogun, annonce faite il y a quelques heures par la FIFA. On va en parler. Balogun qui pourra donc jouer le 8e contre la Belgique. Vous restez avec nous dans un instant. La suite de l'after intégrale Coupe du Monde. On va parler. Tiens Fabrice, on va parler encore une fois de l'équipe de France et du Paraguay. Surtout Christophe Dugarry arrive dans un instant. Débat à venir sur RMC. À tout de suite.
RMC, l'after foot, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
On dirait de New York et de Paris, à moins d'une heure et demie du coup d'envoi du match 8e de finale Brésil-Norvège qu'on vivra en intégralité sur RMC. Daniel, tu seras là pour le débrief de ce duel attendu, bien sûr. On continue l'after intégrale Coupe du Monde. On parle de l'équipe de France et maintenant du Paraguay. Avec ton avis, Daniel, forcément il ne faut pas critiquer le jeu des Paraguayens. Jingle, Daniel Riello.
Mais moi, quand le niveau est pas bon, je suis pas bon.
Alors c'est pas
Daniel,
vraiment...
permets-moi juste d'accueillir Christophe Dugarry qui va écouter attentivement ton avis. Il voulait être là, il va réagir dans un instant. Il va t'écouter
je
attentivement. Salut Christophe.
Là.
Salut
Christophe.
Ouais. C'est encore le magicien Varnier qui t'a convoqué.
Exactement.
Je voulais écouter Daniel surtout, et c'est ça qui m'a convaincu.
Le problème, Christophe, c'est que j'ai peur qu'Antoine, qui est quand même un très bon vendeur, comme tu le sais, on sait tous qu'il aurait très bien pu être devant les galeries Lafayette avant de les casseroles et les costumes. J'ai peur qu'il t'ait vendu un avis qui n'est pas exactement celui que vous attendez. Et d'ailleurs, j'ai bien entendu d'ailleurs dans le lancement de Nicky que c'est pas exactement ça. Justement, vous pouvez critiquer le jeu du Paraguay autant que vous voulez, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait après le match contre l'Allemagne, où j'ai même dit bah oui, moi je me délectais à l'avance d'un France-Allemagne, j'avais pas envie de voir France-Paraguay parce que j'imaginais que ça allait être un match pourri. Oui, le jeu du Paraguay ne me plaît pas, je me suis fait insulter par la moitié du pays du Paraguay depuis le Allemagne-Paraguay parce que j'ai dit que c'était un jeu que je détestais, qui m'intéressait pas. Sauf que je veux avoir le droit de le dire. Je veux que ça existe. Moi, j'ai toujours eu cette incohérence que, d'ailleurs, je prenais pleine face à chaque fois qu'il fallait parler de l'Atlético de Diego Simeone. C'est que, ok, c'était pas mon football, mais que ça me faisait kiffer quand ils sortent le Barça en 2016. Parce que c'est leur façon de faire, c'était pas ce que j'aimais, mais je trouvais ça chouette que ça existe. Et, comment dire? Après, quand tu supportes l'équipe qui fait ça, t'as toujours un sentiment qui est différent. Tout dépend toujours du balcon. Moi, j'ai grandi avec, dans ma tête, les commentaires de l'Italie-Argentine de 82, où Gentile est au marquage individuel de Maradona tout le match, et qu'il lui arrache le maillot, il fait tout, et que c'est Maradona qui finit par prendre un carton jaune parce qu'il n'arrive pas à se contrôler. Et moi, je me souviens encore des commentaires où on disait que les Italiens étaient des voleurs, des bandits, des tout. Je pense que Thierry Roland a dû utiliser à peu près toute la palette. Et évidemment que bah forcément ça me touchait parce que à la maison
t'étais pris subitement,
voilà, et qu'en fait hier j'ai entendu la même chose: les Paraguayens c'est des voleurs, c'est des bandits, c'est des voyous, et ça je supporte pas. C'est leur façon de faire.
Après, ils ont un comportement de bandit hier sur le match.
C'est leur façon de faire. Tu critiques leur jeu autant que tu veux. Je pense d'ailleurs que si c'est pas des Sud-Américains et que c'est des gens d'un autre continent, je pense que l'ONU est saisie en France et on crie au racisme et on crie à peu près à toutes les injustices de la terre. Mais
pourquoi?
comme c'est des pauvres Paraguayens, on a le droit de le dire.
Non, mais non.
Mais j'ai pas dit toi.
Oui,
j'ai dit qu'en France, des gens s'en seraient chargés et qu'on n'aurait pas supporté d'entendre dire que c'était des voyous.
Tu veux dire que si c'était une sélection africaine qui mettait des coups de coude.
Je pense que les commentaires n'auraient pas été les mêmes.
On aurait dit la même chose.
Le Ghana,
quand le Ghana est moche à avoir joué, on dit que c'est.
Moi, tu prêches un convaincu, parce que moi, je le dis et je ne regarde jamais qui fait. Moi, je traite tout le monde pareil. Moi, je te dis qu'en France, on n'aurait certainement pas entendu les mêmes commentaires. Donc, entendre le Paraguay c'est pas beau. Oui non mais attends, moi je l'ai dit dès le match contre l'Allemagne que c'est pas beau et que je voulais pas les voir. Moi j'ai dit, sauf que ce soir-là, qu'est-ce que j'ai pas entendu? J'ai entendu que c'était un exploit, j'ai entendu que c'était formidable, que c'était pas un braquage. Personne, je me suis fait monter sur la gueule parce que c'était pas un braquage et il fallait surtout pas dire que c'était un braquage.
Daniel, c'est différent.
Alors que c'était un braquage. Mais oui, c'était un braquage et qu'ils ont pas eu besoin de mettre les coups.
Non mais les matchs,
ils ont pas eu besoin de mettre les coups parce que l'Allemagne était tellement fébrile qu'ils ont pas été besoin d'utiliser la manière forte. Contre la France, ils ont dû faire et la partie braquage et en plus mettre les coups. Bah ouais, ils ont ça dans leur palette en plus. Et que moi, je veux, parce que le football, quand on parle de l'universalisme du football, quand vous venez défendre le football à 48 équipes parce qu'il faut tout voir, il faut voir le football du monde entier, eh ben prenez-le dans la poire, le football du monde entier. Moi, je l'accepte comme il est. Comme je l'ai dit depuis le début, ce que je reprochais à la formule, c'était les meilleurs troisièmes. C'est pas de voir des pays comme le Caver, alors que tout le monde m'a accusé de ça, alors que c'est archi faux. Moi, l'équipe qui a mérité parce qu'elle s'est qualifiée en fonction du nombre de tickets, qu'elle vienne, qu'elle nous montre son football, qu'il soit moche, dégueulasse, beau, qu'il soit audacieux, qu'il soit fébrile, qu'il soit... Moi, je les accepte
tous. Le Caver, après le premier match, tu savais pas qu'ils allaient faire deuxième ou troisième, Daniel?
Non, Caver, je les ai acceptés parce que dans la zone Afrique, ils ont fini dans les
premiers. Ils avaient pas le droit de défendre. Ils avaient pas le droit de défendre.
Bon, alors, Daniel,
ça t'intéressait pas,
Christophe. Mais bien sûr que ça t'intéresse pas, j'aime pas mais une fois qu'ils sont là, ils sont là.
Ça t'intéresse pas, on comprend plus rien. Est-ce que ça, ce football là, t'en as envie ou t'en as pas envie? Il le faut, il le faut pas.
Je vais essayer de prendre Google Trad en chinois pour te le redire. L'équipe, si elle s'est qualifiée, elle a le droit d'être là, c'est tout. Elle s'est qualifiée, elle a le droit d'être là, elle joue comme elle veut.
Voilà. Je joue comme elle veut. Alors justement,
je les traite pas de voyous, de bandits, tout ça. Après que je te dise que l'Espagne Cap-Vert ne m'intéresse pas, c'est encore autre chose.
Mais la façon dont
les Paraguayens ont joué contre l'Allemagne. Moi, j'avais très envie que les Allemands gagnent au péno. D'une, parce que je voulais voir France-Allemagne, et deux, parce que cette façon de jouer m'emmerde. Mais alors, je le répète, quand l'Atlético le faisait,
Daniel, on a compris.
C'est pas mon foot, mais je veux être libre de ne pas aimer ça. Je veux qu'il y ait cette liberté là. Voilà.
Okay,
et
Christophe,
je veux être libre de voir également et de pouvoir accuser les gens qui craquent, qui sont poussés à bout, exactement comme je te l'ai dit tout à l'heure en 2006. Oui, c'est une erreur de la part de Zidane d'avoir craqué. Il a mis tout le monde dans la merde. Ne craque pas. Exactement ce que les Français ont fait hier.
Ok, Daniel, vas-y Christophe.
On accepte les différences culturelles. Je veux qu'il y ait des différences culturelles dans le monde. Je veux pas que ce soit standardisé.
Daniel,
je veux pas que les gens ressemblent partout dans le monde, moi. Voilà.
Non, mais on est assez d'accord avec ça. On accepte tous les footballs. Ils ont le droit d'exister. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais j'ai aussi le droit de changer de chaîne et que ça me gonfle totalement. Moi,
exactement.
Une équipe qui a pour seul but de mettre des coups, de la triche et qui fait pas trois passes d'affilée. Excusez-moi, j'ai envie de vomir. Le Paraguay, c'est un football préhistorique où tout le monde s'emmerde. Tout le monde, les spectateurs et les acteurs, il y a zéro plaisir. Moi, qu'ils rentrent chez eux, j'en suis ravi. Et surtout, ne me parlez plus du Paraguay. J'avais l'impression que c'était encore un match d'il y a 30 ans quand on a joué nous. Et je pense que le match d'il y a 30 ans, il était de meilleure qualité que le football de maintenant. Le Paraguay, mais ils ont quand même autre chose à proposer. C'est le football préhistorique, c'est fini ce football. Il est où le panache? Il est où le plaisir? Il est où se régaler? C'est tout ce que tu proposes à ton pays, 7 millions d'habitants. Et comme me disent pas, c'est un petit pays, ils peuvent rien faire d'autre. La Croatie, ils sont pas plus grands. Le Cap-Vert, regarde le Cap-Vert. On se souviendra en 2026, la performance du Cap-Vert. Ça restera. Voilà, comme
ouais,
une équipe
c'est
avec
leur
du panache.
Ils sont tombés sur des Argentins moins forts que les Bleus.
Mais moi,
tout le monde va pas jouer de la même façon, Christophe.
Sauf que moi, je me garde le droit de dire, parce que je suis là pour analyser comment des choses, je ne veux plus les voir. Et la prochaine fois.
Oui, sauf que quand c'était contre l'Allemagne, je sais pas que c'est un exploit. Toi, je sais pas, mais tout le monde a dit que c'est un exploit.
Et je serai pas le seul à dire la prochaine fois qu'il y aura un match du Paraguay à la télé, et bien les gens, ils changeront de chaîne. Ils se diront, mais je veux pas le voir. Alors si ça fait plaisir à 7 millions de Paraguayens, tant mieux, de toute façon, c'est le but. La nouvelle formule, elle est faite pour ça, donc tant mieux. Mais je trouve que l'image qui est renvoyée justement de cette équipe du Paraguay est détestable et horrible. Voilà, je pense qu'il y a la possibilité aujourd'hui de faire autre chose. Ils jouent encore moins bien qu'il y a 30 ans, avec toujours la même idée, toujours la même philosophie, toujours la même façon de penser. Mais c'est pas possible de jouer au football comme ça.
Ouais, mais toi tu voudrais que toutes les équipes jouent bien. Moi je pense que c'est toujours bien d'avoir des styles différents. Je veux pas que tout le monde se ressemble, tout le monde relance de derrière, tout le monde essaye de jouer de la même façon.
Je joue bien, pas du tout, Daniel. Je veux pas qu'une équipe se résume à mettre des coups, à tricher et à ne pas faire trois passes d'affilée. Je demande pas des miracles, je demande pas que ce soit le Brésil. Je n'en suis pas là. Je demande juste à ce qu'ils jouent au football un petit peu.
Ça me fait marrer.
Non, mais en fait, le problème, ouais, le problème du gars, c'est qu'en fait, il y a une incohérence avec Daniel, c'est que il dit tout et son contraire depuis le début de la Coupe du Monde sur ses équipes. Ah ouais. Non mais c'est moi.
Pas vrai, tu comprends pas.
Ah si si, Daniel. Non, à chaque fois. Non, mais en fait, c'est à ma guise. Et le gros problème, c'est que tu te calques sur le grand public, sur ce que disent les gens. En fait, tu veux être en contradiction avec ce qui a été dit hier. Sauf que si pour toi,
non mais
je sais. De toute façon, t'inquiète pas, je sais lire le Daniel Riolo. Mais moi, maintenant, je vais donner mon avis. En fait, le gros problème, c'est que tu ne vois pas de différence entre ce qu'a fait le Paraguay contre l'Allemagne et le Paraguay contre la France. Déjà, il y a une grosse différence, c'est que le Paraguay se qualifie contre l'Allemagne et hier il ne se qualifie pas contre l'équipe de France, d'accord. Donc déjà, quand tu rentres dans un débrief de match entre le Paraguay et l'Allemagne, vu la qualité qu'il y a du côté allemand, tu vas critiquer beaucoup plus l'Allemagne dans un premier temps parce que l'Allemagne doit être une équipe qui fait dernier carré. Donc je me rappelle le débrief, Younes Belhanda t'avait attrapé là-dessus en disant je suis beaucoup plus déçu par l'Allemagne que par le Paraguay parce que le Paraguay arrive avec ses armes. Et si tu vois pas de différence dans le côté
J'étais largement déçu par l'Allemagne.
Non mais dans le côté bandit.
On leur a tapé dessus pendant une heure.
Dans le côté bandit.
Ouais.
Hier, si tu ne vois pas que jouer bloc bas. Bien évidemment que je vais pas demander au Paraguay de laisser des espaces face à la France.
En fait, c'est pour
mais
ça,
quand
ça,
tu vois des coups de coude,
mais quand tu vois pas de football.
Mais sur le hors football, ça t'échappe.
Enfin, le problème, c'est que tu ne comprends pas.
La Colombie joue au foot, ils ont la même culture sud-américaine. Mais ils jouent au foot,
on s'en fout.
Le Mexique ce soir,
les gens vont être différents.
Non mais ils vont avoir le vice, mais ils vont jouer au football.
Les gens différents.
Hier,
tu ne comprends pas que je parle pas de football.
Hier, il y a une caricature qui peut nous déranger en fait. On a le droit de dire qu'hier, ça nous dérange.
C'est bien ce que je dis, tu ne comprends pas.
Bah si.
Non, parce que je t'ai dit que moi, ça me dérangeait, que je n'aimais pas ça.
Mais ça reste un comportement bandit hier sur le match.
C'est pas des bandits. C'est un comportement bandit. Quelle est la différence entre les insultes et les bandits?
Qu'est-ce que tu mets à la culture?
C'est la culture, ça veut dire quoi, c'est la culture?
Bah, la culture, c'est que si eux ont envie de voir le foot de cette façon-là, c'est-à-dire qu'eux veulent tirer le maximum sur la corde du règlement. Que si eux, ils veulent aller jusqu'à la limite qui est, en gros, la personne, de jouer avec l'arbitre. D'ailleurs,
c'est le même mec qui déteste Djokovic par rapport à ça.
J'empêche d'exister.
Mais nous, on empêche d'exister le Paraguay. Mais qui a dit que le Paraguay devait pas être là à la Coupe du Monde?
C'est des balais, des bandits.
Mais c'est un comportement de bandit. Toi, quand Djokovic, il fait une heure aux toilettes, tu dis que c'est pas un comportement qui te va. Et ben nous, c'est la même chose.
Je veux, mais moi, je me bats pour que ça existe.
Personne a dit que le Paraguay devait pas être à la Coupe du Monde hier soir. Personne a dit ça.
Et ben alors,
On a juste critiqué.
Pourquoi tu dis que je suis incohérent?
Mais je te dis juste.
Pas du tout.
Bah si.
Donc laisse-moi répondre à Christophe. Christophe, je me souviens très bien, parce que c'est en ça que tu m'avais beaucoup plu quand on ne te connaissait pas du tout, et que tu avais commenté la finale 2006. Pas la finale 2006, oui. La Coupe du Monde 2006 sur je sais plus sur quelle chaîne tu faisais ça à l'époque. Et tu étais un des rares justement en consultant qui acceptait de comprendre qu'il y avait des footballs différents. Et tu avais commenté le Italie-Australie, et tu avais dit que toi, un joueur qui essayait d'aller jouer avec l'arbitre pour provoquer un pénalty et finir par l'obtenir parce qu'il va provoquer en entrant dans la surface, tu comprenais ça. Et tu étais en ça pour moi un consultant différent parce qu'il y avait ceux qui disaient « Waouh, le tricheur, le simulateur, il va faire ça et tout ». Alors que toi, t'expliquais que justement, ça faisait partie du jeu d'essayer d'aller provoquer et d'essayer de jouer avec le règlement. Et moi, j'aimais cette analyse-là. Et j'avais beaucoup aimé cette analyse-là. Et pour moi, les Paraguayens, même si encore une fois, je n'aime pas ce football, je trouve qu'ils ont le droit d'exister parce que ils jouent avec le règlement, ils jouent avec l'arbitre. Que l'arbitre ait été mauvais, ils ont même réussi à rendre mauvais l'arbitre. Et ça, moi, je trouve que c'est fou. Comme Diego Simeone pendant des années.
On pensait qu'il y a eu beaucoup de critiques sur l'arbitre hier, avant les Paraguayens, parce que le problème, c'est que l'arbitre laisse faire les Paraguayens hier. Dans les analyses, il y avait beaucoup de gens qui disaient ça.
Mais au-delà des coups, ils font. Alors, oublions les coups, oublions la triche. Ils ne font pas trois passes d'affilée.
Est-ce que c'est du football?
L'Argentine, ils sont capables de mettre des coups. Ils vont mettre aussi un ingrédient qualitatif.
Ils n'essayent même pas.
Et moi, je suis persuadé que les mecs, que ce que j'ai vu hier du Paraguay, ils se font chier sur le terrain. Ils attendent qu'une chose, c'est de jouer différemment. Il n'y a pas un joueur qui joue en Europe, il joue au Brésil, il joue aux États-Unis. Au bout d'un moment, quand est-ce que ce football va finir par évoluer? C'est pour leur bien. S'ils veulent revenir dans 4 ans avec la même philosophie, avec la même façon de jouer. On les a déjà oubliés, les Paraguayens. On les a déjà oubliés leur parcours. On reconnaît aucun joueur.
Alors je vous retourne la question. Est-ce que Si vous aviez le loisir de décider qui doit venir à la Coupe du Monde, c'est vous qui décidez. Ils vous disent, nous on veut venir. Imagine, il n'y a plus de qualif. C'est Walid Acharchour qui décide de qui vient à la Coupe du Monde. T'as la liste devant toi. Et en face, ils te disent, bon alors Espagne, ça va jouer comme ça, je prends. Paraguay, en 2030, ils arrivent et ils te disent, le entraîneur, il vient au bureau Walid Acharchour, il dit, alors nous on vient, ce qu'on vous propose, bah désolé, en fait, on n'a pas réussi à bosser. On va vous proposer la même chose qu'il y a 4 ans.
Mais moi, ça me dérange pas qu'ils reviennent s'ils sont qualifiés
non,
comme ça.
Mais non, mais.
Mais si, en fait, la méritocratie. Moi, en fait,
ce genre, c'est
moi, en fait,
poser la question.
La méritocratie, c'est.
Mais on va poser la question. Il y a trop de football.
Alors, Nico, je te pose la question. Il n'y a plus de qualif. Le pouvoir, c'est toi qui l'as. Tu as le pouvoir et le mec vient à ton bureau et te dit nous, on revient, mais on joue comme il y a 4 ans. Tu prends ou tu prends pas?
Moi, je prends personnellement.
Eh ben, moi, je prends. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que je ne parle pas de football. Le football, je suis d'accord avec vous. Ce que je veux faire comprendre, c'est que j'aime que chaque pays soit représenté et qu'il vienne, en gros, vient comme t'es.
Mais ça, il n'y a pas de problème.
Ils sont représentés.
Pourquoi selon leurs moyens aujourd'hui.
Pas d'accord. Non, parce qu'en fait, là, moi, où je suis pas d'accord, c'est qu'en fait, entre l'Allemagne et entre l'équipe de France, tu as changé d'avis.
Mais pas du tout.
Mais si. Non, mais tu as.
Dans les deux cas, je veux que ce soit l'équipe protagoniste qui gagne. Qu'est-ce que je te dise de plus? Moi, je voulais que ce soit l'Allemagne et tout le monde m'a engueulé en disant, mais pourquoi tu voulais que le petit se fasse sortir? Tout le monde a pris la défense du petit qui avait battu l'Allemagne.
Pour moi,
j'étais le seul à vouloir l'Allemagne.
Mais parce que pour moi, si le Paraguay. Si le Paraguay a réussi, même hier, mentalement, à faire dégoupiller l'équipe de France et qu'il se qualifie, je dirais en débrief de match, comme Christophe, ce football ne m'intéresse pas, mais ils ont mérité. Moi je suis cohérent.
C'est vous qui êtes cohérent.
Ça me va pas parce que le football, c'est 120 minutes. C'est 120 minutes.
Vous ne voyez que le résultat. Alors que moi je vois la culture et la différence d'approche.
Sur un tournoi, le résultat est très important. Sur un tournoi de 8 matchs, si tu
as. Mais je suis pas en train de te parler de tournoi, je suis en train de te parler d'une approche. Plutôt,
mais parce que
bon, les gars, j'essaye d'aller au-delà.
Parce que vous êtes pas si éloigné que ça en réalité.
Mais oui,
avec
on n'est pas éloigné. Sauf que Daniel, question, en fait, c'est... il n'est pas content des réactions d'hier.
Non, mais Walid,
et parce qu'il est critiqué il y a 3 jours.
Walid, non, c'est pas ça, Walid. Parce que comme non, du... c'est pas que ça.
En fait,
c'est
parce qu'en fait, vous regardez parce que vous êtes français, vous voulez que l'équipe de France gagne. Donc votre analyse, elle est différente.
Non plus, Daniel. C'est pas ça. La question que Christophe a développée, c'est comment le Paraguay peut progresser et un jour être un candidat à un dernier carré.
Et ben moi, je ne les empêche pas. Même s'ils font ce qu'ils veulent.
Pour eux, aujourd'hui, dans le football mondial, le football, tu le vois à l'international. Aujourd'hui, c'est facile de voir le football du monde entier. Aujourd'hui, l'image, le football que tu proposes, c'est un football préhistorique qui n'intéressera plus personne. Aujourd'hui, il y a trop de matchs à la télé pour regarder une équipe qui joue comme ça. Il y a trop, quand il y avait, en 82, 86, quand il y avait peu de matchs, même si ce match était un match de dobre, on le regardait parce qu'il y avait.
Ah ouais, mais alors, dans ce cas-là, Christophe, le Cap Vert contre l'Espagne, qu'est-ce qu'on dit alors? Le Cap Vert contre l'Espagne, on dit quoi?
Il y a tellement de matchs aujourd'hui que ce genre d'attitude, ce genre de comportement ne peut pas faire que cette équipe va évoluer, va être regardée, va être appréciée. Après, si ça leur plaît,
moi, j'ai pas
de continuer à jouer au football comme ça et qu'ils se régalent, ben écoute, qu'ils continuent.
Et puis aussi, on a le droit aussi de dire.
Parce que l'année prochaine, dans 4 ans, il y aura 60 équipes qualifiées.
Bah alors, est-ce qu'on peut parler du Canada alors?
De quoi?
Est-ce qu'on peut parler du Canada 2 secondes?
Le Canada, ils sont bien joués hier.
Parlons du Canada hier. Parlons du Canada qui, sur la première période, livre une espèce de prestation tactique très au point, où en gros ça consiste à presser contre presser, essayer de fermer toutes les zones de terrain et les trajectoires de ballon avec on va dire la volonté en gros d'éliminer le jeu offensif des deux attaquants et de dire par exemple à un mec comme Johnny David, bon, toi en fait tu vas pas jouer, tu vas pas beaucoup toucher de ballon, tout ce que tu vas faire c'est courir. C'est leur méthode.
Enfin, ils ont eu les occasions, c'est-à-dire qu'ils sont protagonistes sur la première mi-temps. Ils refusent pas le jeu comme le Paraguay.
Heureusement, tous les moyens sont bons pour avancer dans la compétition.
Le Canada quand même, Nico, hier. Non mais excuse-moi, parce qu'en fait,
c'est pas la même chose.
Non, parce qu'en fait,
c'est Canada-Maroc.
C'est des méthodes différentes.
Mais très bien, mais ça, on est d'accord là-dessus sur le football multi.
C'est des façons de voir. Les Canadiens, ils le voient. Comment il s'appelle?
Après, c'est une question de sensibilité. Daniel, Walid, voilà. C'est valable au tennis, à tous les sports.
Expliquer que la façon de cadrer.
irriguer le terrain, les courses.
Mais la pluralité fait le charme du football. On n'a aucun problème là-dessus. Sauf qu'hier, on a le droit de dire en débrief que l'arbitre n'a pas fait son boulot parce que comme Christophe dit, on est revenu 30 ans en arrière. On est aussi revenu 30 ans en arrière dans la manière d'arbitrer hier. Parce que quand Koundé, il prend un coup de coude dans la tête et qu'il n'y a pas de carton rouge, c'est qu'à un moment, tu laisses la possibilité.
Sur le dégoût d'hier,
ça va aussi avec. J'ai vu les deux matchs Allemagne-Paraguay et France-Paraguay.
Ils ont rendu
si vous me dites que c'est le même match, c'est archi faux. Vous êtes malhonnête. Il y a une volonté d'être défensif sur les deux matchs, mais il y a un comportement de bandit qui n'était pas le cas contre l'Allemagne.
Comportement, ils l'ont ajouté parce que contre les Bleus, il fallait ajouter une dose
supplémentaire. C'est ça qui est écœurant hier. C'est écœurant hier.
Mais moi, ça ne m'écœure pas. Je vais même te dire, je trouve que c'est malin. Je trouve que c'est malin de tirer le règlement dans tous les sens pour t'en sortir. C'est exactement dans tous les sports. C'est exactement comme
en boxe. Quand le mec ne sait pas, ne peut pas y aller
à se découvrir et qu'il essaye de gratter en s'accrochant. On en a vu des combats comme ça. Le mec qui s'accroche, il essaye de gratter la bagarre comme ça.
Après, je vous laisse. J'aime pas quand tu dis c'est culturel. Alors, je sais que c'est pas ce que tu veux dire. Mais de la manière dont tu le dis quand c'est culturel, ça veut dire que tous les Paraguayens sont des chiens ou des bandits.
Non, mais au contraire.
Je sais que c'est pas ce que tu veux dire.
Justement, moi j'ai eu le sentiment que vous disiez qu'ils étaient tous des bandits. Non, alors que moi je les défends en disant s'ils veulent tirer le règlement comme ça.
On a parlé du match d'hier.
Moi, au contraire, je les laisse libres dans leur approche.
Voilà, on a compris.
Tu comprends. Et que si, oui, il y a une approche culturelle qui est de gratter le règlement, de mettre des coups, de mettre.
La grinta, sudam,
Moi, j'ai toujours aimé cette grinta sudam.
Je ne me dérange pas, mais pas comme ça.
Parfait, voilà. Merci Daniel, merci Christophe d'être venu.
Merci Christophe.
Passer une tête dans l'intégrale After Foot. Merci Walid, vous restez encore avec moi dans un instant. On va parler effectivement d'un sujet qui prend beaucoup de proportions ici. Le carton rouge annulé pour Balogun qui pourra jouer avec sa sélection américaine contre la Belgique en 8e de finale. Reste avec nous, 32 16 ouvert, vous le savez, on est en direct sur RMC, en direct de New York et de Paris. À tout de suite.
RMC, l'After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin. Avec Daniel Riolo, avec Walid Acharchour, dans 1h10 un peu moins, le coup d'envoi du 8e de finale ici au MetLife, New Jersey, de Brésil, Norvège, qu'on vivra en intégralité sur RMC. Alors, sujet brûlant, polémique ici, ça prend de plus en plus, minute après minute. Beaucoup crient à la corruption, évidemment, il faut mettre des grosses guillemets autour de ça, tant qu'on n'a pas de preuves, bien sûr. Ça concerne Folarin Balogun, exclu du match 16e de finale contre la Bosnie-Herzégovine, qui l'avait écrasé certainement involontairement ses crampons sur l'arrière du pied de Tarik Muharemovic, le joueur bosnien. Il sera donc disponible pour le 8e contre la Belgique, car la FIFA a annoncé aujourd'hui que sa suspension était levée. Je rappelle également qu'au préalable, après le match, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, s'en était mêlé. Il avait assuré que la sélection s'était faite entubée. Il disait également qu'il faudrait une procédure d'appel pour ça. C'était probablement trop tard, avait-il dit. Donald Trump, depuis, a remercié la FIFA après la levée de la suspension. Merci à la FIFA d'avoir fait ce qui était juste et d'avoir réparé une grande injustice. Il n'était pas possible de faire appel de la décision, de la suspension. Toutefois, il y a un article du code disciplinaire qui dit qu'on peut retirer une suspension totalement ou partiellement. C'est une application du règlement numéro 27. Ici, encore une fois, beaucoup crient au scandale. La Coupe du Monde de Trump et de son ami Gianni Infantino qui lui rend service, en clair, tous corrupts. Forcément, ça prend une dimension folle.
Et il y a des journalistes, Nico, il y a des journalistes très sérieux, notamment Ben Jacobs, qui donne l'information comme quoi Trump a appelé Gianni Infantino.
Ah bah ça oui, ça je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus.
Qui a expliqué à Trump que Balogun était très important pour les yeux
je pense que c'est facile de l'expliquer quand même.
Qui a remonté l'info?
Je pense qu'il ne le connaissait pas, il y a quelques heures encore, Folarin Balogun. En tout cas, voilà où on en est aujourd'hui. C'est que le début de la polémique, ça va faire parler. Beaucoup disent que c'est le plus gros scandale depuis le début de ce mondial pour l'instant. Qu'en pensez-vous déjà sur la levée du carton rouge?
Bah déjà, moi il y a deux choses.
De manière sportive déjà.
Il y a deux choses. Déjà, moi quand il y a le carton rouge, je trouve le carton rouge très sévère sur le match, hein, parce que Balogun n'a aucun moment
il retombe et il écrase son pied.
À aucun moment il y a cette volonté, et c'est vrai que c'est un geste qui est très très bizarre. Et donc moi quand je regarde le match contre la Bosnie, je me dis purée, un peu comme Léo Messi contre l'Argentine, contre l'Algérie, je me dis que le rouge peut ne pas être donné. Ça c'est petit 1. Maintenant petit 2, l'influence de Donald Trump est beaucoup trop importante dans cette décision, et on pourra pas empêcher les gens de ne pas se poser des questions.
On sait que c'est lui qui a demandé.
Bah en tout cas,
parce
il y a
que
des
s'en félicite.
Il y a des informations de journalistes.
Il faudra en être sûr.
Mais derrière, il y a quand même Donald Trump qui félicite. On sait aussi la. l'affiliation qu'il y a avec Gianni Infantino depuis un moment entre les deux. En tout cas, on pourra pas empêcher les gens de se poser des questions là-dessus.
Le siège de la FIFA est aux États-Unis, hein, oui.
Et surtout, si ça avait été un autre attaquant d'un autre pays, ou si ça avait été Lukaku ou De Ketelaere ou Kevin De Bruyne ou Doku par exemple, est-ce que le carton rouge aurait été levé contre les États-Unis? On pourra pas empêcher les gens de se poser des questions là-dessus. Et c'est vrai que ça plane un doute très très bizarre sur cette Coupe du Monde. Ça c'est une réalité.
Bon, la situation, elle est effectivement hallucinante. Quand j'ai vu ça, je n'ai pas trop compris. Le seul truc qui a atténué, on va dire, ma circonspection, puis un peu de dégoût quand même, forcément, c'est, oui, le fait que j'ai trouvé le carton rouge hyper sévère, et qu'il y a donc effectivement comme une sorte d'injustice réparée. Mais le problème, c'est que ça tombe sur les États-Unis, que Trump, dans la foulée, le président va s'exprimer sur ce sujet, ce qui est complètement fou.
Alors qu'il n'en a rien à cirer depuis le début de la Coupe du Monde,
c'est tout le décorum qui est un peu gênant. Et ce Team USA que depuis le début de la compète, j'aime beaucoup.
Moi aussi.
Parce que j'aime beaucoup leur match, j'aime bien la fête, j'aime beaucoup cette Coupe du Monde, le spectacle qui est proposé, les stades. Je pense que cette équipe, j'avais annoncé quart minimum et je la crois capable d'aller en quart. Et que oui, s'il manque Balogun, il manque un joueur très important dans cette équipe. Mais que le 8e, il est là, il va jouer. Que s'il met un doublé, tu vas avoir une sorte d'arrière-pensée qui va être un peu désagréable quand même.
Ça
va être gênant. Exactement. Quoi. Exactement. Mais le problème, c'est que très vite, parce qu'il y a forcément des défenseurs de ça ou des gens qui vont y prêter moins attention. Le problème, c'est que dans le football, t'as tellement eu de trucs chelous dans l'histoire qu'on te rappellera tout le temps les pays organisateurs qui ont été aidés, tu as fait allusion à ça, qu'on te dira toujours que Messi, si c'était un autre joueur, probablement que ce qu'il a fait
en 2022.
Non, ou même là
contre l'Argentine, contre l'Algérie.
Oui, l'Algérie. Le pied la semaine là. Ouais. Bon, que c'est pas vraiment
après,
normal.
Après, c'est deux cas différents parce que c'est pas Trump. Enfin, il y a l'arbitre qui donne pas le rouge à Messi.
Il a le sentiment que t'as des mecs un peu protégés et que une main devant la bouche là, c'est sanctionné. Et peut-être qu'à un autre moment, ça l'aurait pas été. Et qu'il y a
plein de choses qui vont venir mettre des bémols.
Mais là, comme ça, quand tu prends la nouvelle dans la tronche. Ouais, tu prends une claque, quoi. Tu prends une claque, tu dis merde, quoi.
Moi, ça m'a sorti de la Coupe du Monde. Non, mais quand je dis ça, c'est que, en fait, il y a cette volonté. Ça me pose un gros problème quand il y a ce type d'action où en fait c'est repris politiquement, où en fait il y a une force politique pour une décision football. Moi, je me mets à la place des Belges, mais sincèrement, qu'est-ce que vont dire les Belges? Mais si t'es belge, parce qu'on parlait de la France tout à l'heure par rapport au Paraguay, le prisme qu'on pourrait avoir sur les matchs qu'on regarde ou sur les décisions qu'on analyse. Mais si il y a États-Unis France, après Balogun, ça reste un très bon joueur, mais je pense pas que Balogun
il avait pris un match,
on le savait pas encore parce qu'il prenait le rouge, et le rouge vu la dangerosité, parce que même s'il fait pas exprès, c'est un acte qui est très très dangereux, il aurait pu même prendre deux matchs dans d'autres compétitions.
Mais dangereux.
Par exemple Koulibaly à la CAN, il avait fait à peu près la même chose contre le Bénin, il avait pris deux matchs, je crois. Donc il aurait pu sortir complètement de la compétition. Et l'atmosphère en plus autour de Trump, avec ce qui s'est passé avant le début de la compétition, avec l'affiliation qu'il y a avec Infantino, c'est malsain. En fait,
pour être précis, c'est que je rappelle une chose, c'est que les États-Unis ne pouvaient pas faire appel de la décision. En revanche, le comité disciplinaire de la FIFA a trouvé une sorte de détour en expliquant que la sanction a été suspendue pour une période probatoire d'un an. En fait, tu vois, il y a un jugement en appel présumé pour plus tard, mais pour l'instant, en attendant une décision, il peut jouer ce 8e de finale contre la Belgique. C'est assez fou, ubuesque comme
décision.
Après,
il faut aussi le dire, ça a déjà existé dans le football. En 2002, la Corée, dans les Coupes d'Afrique des Nations, les arbitrages maison. Maintenant, les décisions maison comme ça entre les matchs, je sais pas s'il y en a eu.
Le truc, c'est que même si ça a existé, le Corée 2002, c'était gerbant. Et même si ça a existé, ça veut pas dire que tu l'acceptes forcément.
Exactement.
Maradona qui se plaint en 90 de la FIFA, et de la façon dont il est persuadé, et toute l'Argentine persuadée à l'époque que l'Allemagne gagnera la finale et qu'ils seront aidés. Et oui, le péno avait été un petit peu généreux. Il y a des histoires de Coupe du Monde et de mélange des gens entre sport et politique, c'est toute l'histoire. Mais c'est simple, c'est pas une fois, c'est dix fois. Mais il n'empêche qu'à chaque fois, on a le droit de trouver ça pas normal et gênant, très gênant.
Et après une telle décision, ça ouvre la brèche à beaucoup de contestations des sélections et des fédérations encore en lice dans la Coupe du Monde désormais. Ça va être que ça maintenant. Comment ça oui, mais pas nous. Et ça va être ça l'histoire.
Et surtout les larmes.
Et très concerné les Français avec Olysée.
Oui, on en a parlé avec Fabrice tout à l'heure sur le carton de Olysée. Et surtout, ce qui va être important à dire, c'est que les États-Unis ne seront pas vus de la même manière sur la suite de la compétition. Non, mais c'est que toutes les décisions. Alors que tout se passait bien, je prouve sportivement. Sportivement, il y avait une fraîcheur avec voilà Pulisic, McKenny, on va pas rentrer dans les détails, Balogun, Pochettino qui mettait en place
cette équipe.
Un jeu très intéressant.
Ça
va ajouter la suspicion sur tous les matchs. Si les mecs ils sortent la Belgique, on parlera de ça.
Oui, mais ça. Mais Trump il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est que ça gagne, c'est tout.
Après
la morale, est-ce qu'on dit, c'est pas son souci.
Ah oui, ça c'est dérangeant quand même.
Il faudrait juste savoir quand même si c'est comment ça s'est fait quoi.
Il y aurait eu un appel de Trump comme à Infantino, hein. Mais bon, ça, peut-être qu'on saura jamais, malheureusement.
Il y a des gens sérieux en Angleterre, aux États-Unis, enfin, en Angleterre, c'est des gens très sérieux qui donnent des infos, quand même.
Et je rappelle que Olysée, si la Fédé obtient pas la suspension de son jaune, il sera en danger, hein. Quart de finale contre le Maroc, s'il prend un jaune, il est suspendu pour la demi-finale de la Coupe du Monde. En cas de qualification. Ça peut être lourd de conséquences aussi. Bon, voilà. Dans un instant, Walid, tu veux parler de l'Espagne, Walid, dans un instant.
Oui.
Qui, si elle passe le barrage Portugal en huitième de finale, devient ta grande favorite pour la Coupe du Monde. Certains diront qu'elle était déjà favorite.
Non, mais c'est pas ça, mon avis. Mon avis, c'est pas ça, Nico. Non, c'est que pour moi, s'ils battent le Portugal, ils gagnent la Coupe du Monde.
Ah, c'est ce que je viens de dire.
Ils sont favoris. Il la gagne. Pour moi, la remporte.
On parlera bien sûr du Brésil-Norvège qui démarre dans une heure précisément ici au MetLife. La Norvège, meilleure génération de son histoire, va-t-elle taper le Brésil? Reste avec nous, vous écoutez RMC. Vous voulez des chercheurs, Daniel Riolo, on est ensemble toute la soirée, toute la nuit sur RMC.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Avec Daniel Riolo, avec Walid Acharchour, dans moins d'une heure, le huitième de finale attendu, Brésil-Norvège. On essaiera d'écouter Carlo Ancelotti, qui vient de s'exprimer déjà à moins d'une heure de ce grand rendez-vous pour lui, à la tête de la sélection à Auriverde. Alors, l'Espagne jouera demain son huitième de finale face au Portugal, immense match, très attendu bien sûr, à 21h à Dallas, derby ibérique, toujours accroché. On se souvient, on en a parlé ensemble, Walid, d'un mémorable 3 partout lors du Mondial 2018. L'Espagne qui a déroulé en 16e contre l'Autriche, 3-0. Le Portugal qui a plus que souffert contre une vieillissante Croatie. Mais Walid, tu estimes que si l'Espagne gagne contre le Portugal, elle gagnera la Coupe du Monde. Jingle, Walid.
C'est voilà. Magnifique comme déclin. C'est clair comme Claire Chazal. C'est... J'ai mon avis sur Ousmane.
Non, mais
j'ai mon avis. Oui, Nico, je voulais parler de cette équipe espagnole qui est montée en puissance contre l'Autriche en faisant un super match. Parce que moi, sur la première phase de la Coupe du Monde, je les avais sentis quand même un peu empruntés physiquement. Et ils ont clairement haussé le niveau. Et je voulais parler de cette Espagne-Portugal. Pour moi, si l'Espagne passe l'étape portugaise, je pense que j'ai l'intime conviction que l'Espagne va gagner la Coupe du Monde, que c'est leur plus gros challenge dans cette Coupe du Monde. Il y en a qui parleront bien évidemment de l'Angleterre, de l'Argentine ou même de l'équipe de France, mais je pense que le match-up espagnol face au Portugal sera beaucoup plus dur, que ce soit footballistiquement ou dans d'autres vertus, parce qu'on parle de la Coupe du Monde au point de vue football, mais il n'y a pas que ça. On rappelle, mais pour moi le Portugal, parce qu'il faut aussi parler du Portugal, le Portugal a beaucoup plus de mal face aux petites équipes quand elle est attendue, quand elle a tout à perdre, quand elle a tout à gagner. Le Portugal, historiquement, elle est bien plus forte, et encore plus face aux copains espagnols. Il y a une vraie rivalité entre les deux, et à chaque fois, même la grande Espagne, que ce soit en 2010 quand elle a gagné 1-0 petitement, en 2012 quand ils les ont éliminés, alors qu'en 2012 ils font un tournoi extraordinaire, c'est le seul match où ils vont au tir au but contre les Portugais en Ligue des Nations, même si pour beaucoup ça n'a pas d'importance, la finale de Ligue des Nations, ils sont fait éliminer, c'est le Portugal qui a gagné, où ils les ont vraiment challengés dans le jeu en faisant 2-2, et moi je trouve que voilà ce qui peut se passer sur ce match-là en huitième de finale, parce qu'on dit beaucoup que le Portugal n'a pas envie de... Enfin, c'est un tirage très très compliqué pour le Portugal, mais je suis persuadé aussi que l'Espagne ne voulait pas se taper le Portugal aussitôt dans la compétition. Et si véritablement ils arrivent à sortir cette équipe portugaise qui va vouloir, avec les match-up Nuno Mendes Yamal, où Nuno Mendes fait pas une grande Coupe du Monde, mais Nuno Mendes sur la finale que j'évoquais, il avait été incroyable. Au passage, Yamal a dit que c'était le défenseur qui lui avait posé le plus de soucis, le duel Pedri-Vitinha. En ce moment, il y a plein de débats. Pedri ou Vitinha, est-ce que t'es Pedri, est-ce que t'es Vitinha, est-ce que Vitinha est plus fort que Pedri? Il va avoir aussi une explication au milieu de terrain, la dernière potentielle de Ronaldo, est-ce que Ronaldo va terminer sur le banc le match ou Ramos va rentrer un peu plus tôt? Il y a une histoire autour de l'Espagne face au Portugal qui moi m'intéresse énormément, et j'ai cette vision où je me dis que s'il passe cet obstacle là physique, athlétique, mental, plus rien ne pourra les arrêter dans un deuxième temps, et même l'équipe de France qui est très très forte, je pense que psychologiquement en fait les dernières années sont beaucoup plus positives du côté de l'Espagne face à l'équipe de France. On l'a vu en Ligue des Nations où ils mènent 5-1 avant le 5-4, on a vu aussi même l'année dernière il y a deux ans quand ils gagnent l'Euro plutôt facilement. Je pense que psychologiquement le rendez-vous sera beaucoup mieux abordé en demi-finale du côté de l'Espagne. Donc voilà mon avis, je pense que c'est l'obstacle le plus compliqué avant de gagner la Coupe du Monde du côté espagnol, et je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une formalité ou que l'Espagne est ultra favorite. Moi je dis méfiez-vous.
32-16 pour réagir. Êtes-vous d'accord avec Walid? L'Espagne, si elle bat le Portugal, gagnera la Coupe du Monde. Venez en parler également sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. Daniel.
Bah écoute, je suis un petit peu étonné par cet avis qui est un peu film d'anticipation là, un petit peu.
Un peu va-t'en guerre.
Un avis un peu pronostique. L'intérêt du match, évidemment, il est formidable. C'est à huitième de finale, un des plus intéressants qui soit. Maintenant, est-ce que ça va être leur plus gros adversaire? Sur ce que je vois du Portugal, et si même tout ce que tu dis historiquement est vrai, je les vois vraiment en dessous, les Portugais, malgré tout. Et non, là où je te rejoins pas, c'est que s'ils passent ce tour, leur adversaire le plus dur, ça sera la France en demi. Parce que la France offre des possibilités que le Portugal n'a même pas en rêve, quoi, à tout point de vue, dans toutes les zones du terrain. Donc non, je pense que c'est... dans l'autre sens plutôt. Si jamais ils battent la France en demi, là oui, mais après là, il leur restera plus qu'un match. Donc là, je prendrais pas un gros risque à dire que c'est eux qui gagnent la Coupe du Monde. Mais la demi-finale France-Espagne, si on a des Espagnols qui continuent leur progression qu'ils semblent effectuer match après match depuis le début de la Coupe du Monde, là oui, là on sera face au grand rendez-vous de cette Coupe du Monde. Mais le Portugal, pour moi. Moi, je ne les ai pas vus progresser, même contre la Croatie. Donc, ça peut être une étape, justement, peut-être plus abordable que celle qu'ils ont rencontrée dans le passé. Où, oui, c'est vrai, le Portugal est toujours meilleur contre les plus gros. Oui, le Portugal a assez de qualité pour faire mal à beaucoup d'équipes. Mais là, je donne...
Moi, j'ai cette vision-là. Elle n'est pas que football, parce que tu as raison d'insister là-dessus. Moi, le match contre la Croatie ne m'a pas rassuré du tout. Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu deux très, très bonnes nouvelles pour le Portugal. C'est que Roberto Martinez n'a pas signé à Al Nassr et que Ramos est rentré à la place de Ronaldo par un concours de circonstances, parce que tactiquement ils étaient en train de prendre l'eau.
Il a été décisif.
Et Ramos a été décisif. Donc je pense que même si footballistiquement, attention, la première mi-temps elle est quand même portugaise et ils sont bien meilleurs que la Croatie. Et la Croatie, c'est toujours très très dur de les sortir, même quand ils sont vieillissants. On l'a vu l'année dernière où le Brésil, il y a 4 ans avec le Brésil, c'est toujours compliqué. Ils aiment ces matchs longs, ces matchs à rallonge. Et moi je pense qu'ils sortent renforcés de ce huitième de finale et que le prisme du tournoi est quand même différent, parce que si tu sors face à la grande Espagne qui vient d'être champion d'Europe,
face à eux le grand favori, le champion d'Europe,
exactement. Donc, bon. Et moi je crois beaucoup à ces histoires là dans les tournois. Et pourquoi je dis que l'Espagne, c'est pas qu'une histoire de foot en fait, c'est que l'Espagne récemment a eu des difficultés face à cette équipe portugaise
en Ligue des Nations déjà,
en Ligue des Nations. Et même quand on parle de l'Espagne, Nico Williams n'est pas là, il apporte pas ce côté athlétique. Et de l'autre côté, Yamal va jouer Nuno Mendes, qui est un peu sa kryptonite. Et moi, je dis que s'ils arrivent à résoudre ça, ça
va leur... pas exclu que Yamal bouge beaucoup, justement, du fait qu'il n'y a pas son pendant de l'autre côté.
Il va énormément compenser. Mais moi, c'est un impopulaire opinion aujourd'hui, Nico, de dire que l'Espagne, attention, danger contre le Portugal. Et pour moi, c'est le plus gros danger. Parce que, bien évidemment, comme Daniel, aujourd'hui, le côté factuel, c'est que l'équipe de France est bien plus redoutable, que même l'Angleterre est bien plus redoutable, bon, moins l'Argentine avec ce qu'ils ont fait contre le Cap-Vert. Mais moi je dis méfiance à ce barrage.
Il y a une autre dimension dans ce match. Voilà,
il y a une autre dimension autour de cette Espagne-Portugal que n'aura pas en fait l'Espagne face à la France ou face à l'Angleterre, qu'elle a battu pour gagner l'Euro en finale et en demi-finale. Et à chaque fois la France, globalement hormis 2006, à chaque fois qu'il les joue, c'est souvent l'Espagne qui passe, et plutôt facilement. Donc c'est sur ça que je voulais insister moi ce soir.
Alors, il a parlé, Luis de la Fuente, de ce duel face au Portugal. Et il a parlé de Lamine Yamal, évidemment. Il a été interrogé sur sa star. Il dit, Lamine est un compétiteur. Il voudra prendre sa revanche par rapport au match de Ligue des Nations. Il ajoute, mais ça remonte à longtemps. Et Lamine a considérablement progressé. Ce n'est plus le même joueur qu'il y a un an. Il est plus mature, plus sûr de lui. Il lit mieux le jeu. T'as dit un truc aussi, on peut s'amuser, hein. Le duel dont tout le monde parle également, c'est le duel Pedri-Vitinha.
Ouais, tout le monde parle de ça, ouais.
Qui est plus fort aujourd'hui?
Ah, dans cette Coupe du Monde, c'est Pedri.
Pedri est bien meilleur que Vitinha sur la Coupe du Monde après.
Vitinha semble avoir. On n'a pas résolu la malédiction des Parisiens dans cette Coupe du Monde, qui ont mal. Même Nuno Mendes, hein.
Ouais, en difficulté, en deuxième mi-temps.
Neves, on l'a à peine vu. Vitinha, pareil.
Pacho est en difficulté.
Pacho était en difficulté.
Avec l'Équateur.
On a Fabian Ruiz, qui avec l'Espagne est en voie de disparition.
Ouais, ouais.
Parce que normalement, demain, dans ce match, c'est le milieu de terrain du PSG est au grand complet. Donc on va voir un petit peu ce qu'il donne dans ce match, mais Ruiz est un peu en voie de disparition.
Sans pas Lucho, c'est un peu plus compliqué.
Donc ça a l'air, en tout cas. Ouais, non, mais que ce match soit passionnant, fascinant à envisager, il n'y a pas
parce
de problème.
Y a
de là à dire qu'il passe ça et gagne, non. Contre la France, ce sera bien plus dur.
Il y a un côté... on va voir qui est qui. Il y a vraiment un peu comme sur le espagnol, sur le Espagne France à la Ligue des Nations, avec pas mal de débats. Dembélé Yamal pour le Ballon d'Or sur le 5-4, où il y avait une grosse explication au milieu de terrain ou même devant. Je le ressens de la même manière, où il y aura vraiment des matchs dans le match dans cette équipe. Et quand tu parles de Vitinha et Pedri, pour l'instant Pedri fait une meilleure compétition que Vitinha. Après Vitinha, on vient d'en parler avec l'influence qu'a eu Luis Enrique dans sa récente carrière, mais il y a aussi le fait que Vitinha, moi je pense qu'il est totalement cramé.
Le milieu n'est pas construit de la même façon, et il y a probablement une fatigue de la saison.
Je pense Vitinha, moi j'irai pas le critiquer sur cette compétition, même si beaucoup de Portugais.
D'ailleurs, ça peut expliquer les prestats qu'on vient de dire.
Oui, aussi.
Parisiens.
C'est pour ça que pour moi.
L'énergie laissée toute l'année dans ce jeu énergivore et fait de plein
pas
de générosité.
Tous, pas tous, parce que Vitinha est pour moi le joueur qui a le plus joué. Moi je compare pas Dembélé et Vitinha cette saison. Dembélé a beaucoup moins joué. Lui, depuis la Coupe du Monde des clubs, il est constamment là, à chaque fois au Paris Saint-Germain. C'était le joueur avec Zaire Emery qui a été le plus utilisé, toutes compétitions confondues. Mais donc je pense qu'il y a la somme des deux, le fait que le football proposé par Luis Enrique et celui par Roberto Martinez soit très très différent, et le fait que je pense en termes de créativité il a plus cette mobilité pour faire la différence. Mais ce soir, demain soir, il sera quand même attendu au tournant, Vitinha, et il y aura bien évidemment des comparaisons match dans le match entre les deux avec Pedri.
Voilà ce que vous pouvez dire sur ce duel. On sera là, bien sûr, pour le suivre dans un instant. Daniel, Walid, vous restez à mes côtés, bien sûr. On va faire monter la pression autour de ce Brésil-Norvège. Je vois derrière moi, là, on est au 14e étage de notre immeuble. Le stade, le MetLife, est derrière. Je vois beaucoup, beaucoup de jaune, bien sûr.
Ah, il est au MetLife, le stade. Il est à la maison.
Eh oui, on a la maison, les amis. On va essayer
de gratter des places. Tu peux balancer le nom de ceux qui ont réussi à gratter.
Je crois que je vais avoir la chance d'y aller, peut-être. Hein,
Mais non.
Je crois que je vais avoir la chance d'y aller, mais bon, il faudra que je cours très vite.
Tu vas prendre le petit chemin que vous allez trouver, qui est 25 minutes pour y aller à pied.
Je vais risquer ma vie, hein, le long des nationales. Je vais courir entre les voitures.
Mais tu vas arriver à la 15e.
Au moins, j'espère, à 16h15.
T'arrives à la 15e?
15e, 20e.
Ouais, d'accord. Okay.
Je vais louper les in.
Là, j'espère que t'es en jogger. Là, j'espère que tu vas. T'as sorti les hommes ou pas?
Non, mais fais pas le coup de traverser
le
tour.
J'ai le petit short un peu large. On va courir. Tu connais ma caisse, Walid.
Les hommes vont beaucoup t'aider, je pense.
Pourquoi tu cherches à avoir un partenariat ou quoi, Walid? Tu le sais deux fois la marque. C'est quoi l'histoire?
Mais non, enfin, les hommes, les Asics, les quoi, les.
Les Oka.
Les Oka, il n'y a pas de souci.
C'est Oka, moi, personnellement.
Voilà.
Bon. Allez, on revient dans un instant avec Daniel et Walid pour évoquer ce Brésil Norvège. Attention, Ancelotti a parlé en portugais, on va essayer de le traduire. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Avec Daniel Riolo, Walid Acherchour en direct de Paris. Nous, on se trouve ici toujours dans le New Jersey et on est à moins de 40 minutes du coup d'envoi du 8e de finale de la Coupe du Monde entre le Brésil et la Norvège. Je rappelle qu'on est également en direct sur Afterfoot TV, sur la chaîne YouTube de l'After et évidemment sur RMC. Brésil-Norvège, MetLife, je disais tout à l'heure, la Norvège avec incontestablement sa meilleure génération qui a survolé sa campagne de qualif, son début de Coupe du Monde, hormis le match face aux Bleus, mais on a fait tourner le sélectionneur Solbakken et puis un Brésil en face qui s'est fait peur face au Japon. Qui est votre favori? 32-16 pour en parler. D'abord, Aurélien Tiersen est avec nous en direct du stade. Salut Aurélien.
Salut Nico, salut à tous.
T'as pas encore les compos?
Non, toujours pas.
Évidemment, tu les as.
depuis un moment d'ailleurs. Et Gabriel Martinelli est bien titulaire côté Brésil. C'était la principale incertitude puisque Lucas Paqueta est absent. Donc on a un 4-2-4, ouais, Daniel, avec Alisson dans les cages, Marquinhos, Gabriel dans l'axe de la défense, Danilo à droite, Douglas Santos à gauche, Casemiro, Bruno Guimaraes dans le cœur du jeu, c'est du classique. Et donc devant, 4 attaquants, Ryan à droite, Vinicius à gauche, Matheus Cunha et Gabriel Martinelli en soutien. Et côté norvégien, là c'est okay, du grand classique, les 11 attendus. Nyland dans les cages, Egem Ayer en défense, Rierson, Moller, Wolfe sur les côtés, Sanderberg, Patrick Berg, l'ancien Lensois, le joueur de Bodø/Glimt qui a vraiment gagné sa place au cœur du jeu côté de Martin Odegaard, et devant Sørloth, Haaland, Antonio Nusa.
Voilà pour les compos. Donc toujours pas de Neymar, hein. On l'évoque tout de suite rapidement. Il y avait un espoir chez beaucoup de supporters brésiliens après la conférence de presse de Carlo Ancelotti, qui avait dit oui, Neymar et Vinicius peuvent jouer ensemble, et je pense qu'ils vont jouer ensemble à un moment. Très fort en communication, mais il laisse ça en suspension pour l'instant.
Ça c'est dingue quand même, on l'a pas évoqué. C'est en fait le fait de rassurer tout le monde en conférence de presse sur Neymar.
C'est son rôle, il le sait, il le sait, mais il est bon là-dessus. Il est bon, il est bon.
Au Brésil, les gars, vous inquiétez pas. Il est un peu prisonnier de cette situation. Et il savait qu'il s'était mis dedans.
Plus, et à la fin, il ne le fait pas rentrer sur le dernier match, de manière plutôt logique. Après le match, il dit non, mais vous inquiétez
qui
pas.
A
en fait,
donné une interview,
si le score était différent, il serait rentré. Genre, en gros, il fait l'inverse.
Il est en train de balader César, tout le pays. Là.
C'est Paulo, interview de Paulo César hier, à qui on a parlé de ça justement, et il te répond et il dit vous comprenez ce que ça veut dire, le mot politique?
Ah ouais, c'est ça, exactement, voilà. C'est que tu sens.
Mais Walid, c'est sur tous les sujets, hein, ouais. Sur tous les sujets, c'est la sérénité de Carlo Ancelotti, parce qu'ils sont nuls les Brésiliens quand même, et il n'y a aucun journaliste, aucun supporter qui s'inquiète. Il a déjà son contrat pour la Coupe du Monde 2030, on construit tranquille. C'est plus le même Brésil qu'avant, toi, même Neymar.
2030, si ça perd ce soir contre la Norvège, je veux bien le voir.
Bah, on m'a assuré.
Non, il sera là.
Si ça perd ce soir,
pour moi, il sera là.
On va voir.
Ah oui, mais il est là que depuis un an,
et l'envisage très chaud.
C'est le nouveau Brésil, Daniel.
Pardon?
C'est le nouveau Brésil. Ils sont calmes maintenant.
Oui,
ils sont mesurés.
Surtout qu'ils ont connu 3 ans sans coach où c'était catastrophique. Donc je pense que
le Brésil, c'est simple. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu et je ne le comprends pas. Donc moi, je veux bien le comprendre ce soir. J'attends une réponse ce soir. Si tu me dis au jeu du pari sur qui tu mets l'oseille, bah, je mets sur la Norvège, qui en plus, pour le coup, vu les choix qu'ils ont fait dans cette Coupe du Monde, physiquement, vont arriver plutôt frais dans cette rencontre. Là où les deux équipes se rejoignent, c'est que depuis le début de la compète, elles ne se sont pas fait peur. Elles ont maîtrisé leur truc tranquillement. Il n'y a pas eu de choses très compliquées, de scénarios un peu périlleux. Ils sont là, ils arrivent en huitième de finale assez tranquillement. Mais s'il y a une équipe qui doit avoir un peu plus de pression, c'est quand même le Brésil. Et moi, ces Norvégiens, là, avec leur espèce de fête, avec les supporters, le coup du drakkar, machin, je les vois dans une décontraction totale, prêts à faire ce qui sera considéré chez eux comme
exactement.
Un exploit. Parce que sortir le Grand Brésil, ça sera considéré comme un exploit. En termes sportifs purs, j'en suis pas convaincu, parce que je pense que la Norvège a une très bonne équipe. Je suis très impatient de voir ce match. Je donne un léger avantage à la Norvège et j'ai envie de voir si les Brésiliens sont capables de nous faire mentir, tous ceux qui disent depuis le début de la Coupe du Monde qu'ils n'ont encore rien montré. Est-ce qu'Ancelotti peut trouver avec cette recette là de ce soir une clé pour évoluer? Ok, bah montre-nous ça, Carlo, parce que moi pour l'instant j'y crois pas. Pour moi, là le Brésil pour l'instant, en l'état de ce que j'ai vu, c'est un tout pour Vini.
Mais moi, je pense que c'est la solution et que c'est le projet et que c'est un projet qui peut fonctionner sur un football de sélection où t'as des joueurs qui peuvent travailler pour lui. Moi, je l'ai dit en début de compétition, mais la blessure de Rafinha, c'est un mal pour un bien parce que ça va permettre d'avoir une responsabilité avec un homme providentiel. Et on sait que dans ce type de sélection, ça peut être parfois problématique, mais ça peut être aussi salvateur. Surtout qu'en plus, pour l'instant, Vinicius assume totalement son rôle alors qu'avant la compétition, il y avait beaucoup de critiques à juste titre sur lui. Moi, le Brésil ne me fait pas rêver. Mais je vais pas aller dans la tangente inverse en disant que le Brésil me déçoit. Le Brésil fait son tournoi pour l'instant, hormis les 25 premières minutes contre le Maroc où ils ont été cata. Bon, ils sont proches de ce qu'ils doivent faire ou de ce qu'on attendait d'eux. Ils sont là. Maintenant, là où Daniel a raison, c'est que le match contre la Norvège va être intéressant parce que physiquement, athlétiquement et puis en termes de talent, c'est pas le Japon, c'est pas l'Écosse, c'est pas Haïti. Et donc là, on va voir véritablement, en plus avec une compo plutôt offensive, avec ce 4-2-4, comment au milieu de terrain ils vont pouvoir résister, parce que moi la grande équation et le grand point d'interrogation, c'est Casemiro, que je trouve à la ramasse complet, mais qui continue d'être un joueur important pour Carlo Ancelotti.
Écoutons justement Carlo Ancelotti dans ce rapport de force. Y a-t-il un plan anti-Erling Haaland? 5 buts pour l'instant pour l'attaquant norvégien dans ce mondial.
Tout le monde connaît Haaland et je ne vais pas faire l'offense d'expliquer à mes défenseurs comment jouer contre lui. Ils le connaissent mieux que moi, ils ont joué contre lui plein de fois, on se prépare surtout à bien contrer la Norvège, ce qui inclut les caractéristiques de Haaland. Évidemment, c'est un attaquant tellement dangereux.
Erling Haaland, moi il m'est encore plus sympathique depuis ce mondial, je trouve. À l'image de la sélection, bah, il affiche une décontraction, une tranquillité.
Carlo va dire il faut surveiller Haaland, non, c'est un attaquant qui est très fort et tout. On avait presque pas besoin d'interview quand même. Hein.
Mais non, mais c'est pour lancer un petit sujet à Haaland, Daniel.
Ah, Niki, préviens, là, que je me serais un peu chauffé.
C'est un son de cœur, 10 secondes qui mange pas de pain, tu vois.
Non, mais Nico, Haaland a toujours été attachant, ça a toujours été.
Non.
Là, on a eu une version d'Haaland. Moi, je pense que c'est un mec, parce que tout le monde le prend un peu pour un robot, un grand teubé, parce qu'il est grand, un physique un peu à la Ivan Drago, là. En fait, si tu le suis un peu sur les réseaux, il est assez drôle.
Moi, je le suis sur les réseaux depuis longtemps avant de sortir.
C'est un homme des réseaux, un homme du digital.
Mais à chaque fois, même à Dortmund à l'époque, etc.
Oui, mais les gens s'étaient foutus de sa gueule quand il faisait le truc du yoga.
Bien sûr, oui, ça faisait un peu d'eb à l'époque.
Il a
une autodérision de fou.
Ouais, c'est vrai.
Exactement.
Il est très, très rafraîchissant. Il est très fun, il est très cool.
On l'a rarement dit.
Non, mais c'est vrai. Mais moi, depuis longtemps, pour ceux qui le suivent, que ça. Moi, contrairement par exemple à Mbappé, il y a des fois où j'étais critique envers Mbappé parce que Haaland, il y avait une humilité. Alors, je sais pas si c'est une fausse humilité, mais lui globalement dans ses équipes ou même dans ce qu'il dégageait, il faisait son boulot sur le terrain et sur le hors terrain, il a jamais eu des déclarations fracassantes, il a jamais pris la lumière sur lui. Et c'est ce qui me plaisait chez le Norvégien. Donc après oui, peut-être que là c'est.
Non mais Walid, c'est intéressant parce qu'on parle moins de lui que des autres stars du mondial. Il a 5 buts comme Erling Haaland. Hein.
Ouais.
C'est Vinicius, c'est Mbappé.
Ouais, ouais.
Et Haaland arrive derrière. Il y a 5-6 ans. C'est un duel Mbappé Haaland.
Se montrer encore plus et terminer par un beau comment ils appellent ça, le drakkar là, le mouvement. Il y a pas
ce truc.
C'est le rameur norvégien.
Ah voilà, je savais bien qu'il y avait un nom.
Ouais.
Aurélien, j'ai beaucoup aimé ton anglais.
Viking Row.
Ouais. Non mais là où t'as raison Nico, c'est qu'il était. Lui aussi il était attendu au Carrefour, là, à l'accueil du Carrefour dans cette Coupe du Monde, parce que il y avait beaucoup de critiques sur le fait que les pays de Galles, il y avait pas mal de pays entre guillemets anonymes avec une star et pas grand monde autour qui avait fait l'Euro, qui avait fait la Coupe du Monde, et lui ça faisait quand même ça commençait à devenir problématique de voir autant de non-participation à la Coupe du Monde ou à l'Euro, surtout qu'il a une équipe. On regarde, hein, il y a quand même pas mal de joueurs qui jouent en Europe.
Il est plus tout seul maintenant.
Voilà, il est plus tout seul.
Il y a des vrais joueurs.
Il y a les Nouza, il y a les Odegaard, les Sorloth. En plus Bodo Glimt a fait de très belles choses en Europe sur les dernières années. Et là, il y avait une vraie pression autour de lui. Il se qualifie devant l'Italie en massacrant l'Italie là-bas chez eux. Et sur le
personne
début.
Personne se souvient de ces deux matchs. Hein.
Si, ça avait été.
Ouais, 3-0-4-1.
Ouais, 3-0-4-1. Et lui, il avait été.
Un souvenir de ces matchs.
Et lui, il avait été monstrueux pour les qualifier. Et là, il était encore une fois prédominant. Et là, sur le début du tournoi, contre le Sénégal, monstrueux. Contre la Côte d'Ivoire, il marque. Sur le premier match, bon, ça reste l'Irak qui met doublé. Et là, ce soir aussi, il y a l'attraction Vinicius, mais il y a l'attraction aussi Erling Haaland du côté de la Norvège.
Oh, Neymar s'échauffe.
Il est là. Ah, il est là. Bah, soi-disant, il a 90 minutes dans les jambes, mais bon, on avait tous compris en cours de presse que.
Il a 90 minutes dans les jambes, mais il n'est pas titulaire. Il y a un problème.
Officiellement, il a 90 minutes dans les jambes, mais on avait très bien compris qu'il ne serait pas titulaire, puisqu'il a été dans le même sac que Rafinha, qui n'était pas prêt à débuter le match. Donc, on le verra peut-être rentrer en fin de match si les choses se passent correctement pour le Brésil. Auquel cas, on le verra avec Vinicius, qui était la petite phrase aussi sortie par Carlo Ancelotti hier en conférence de presse. Et juste sur Haaland, sur ses 13 dernières sélections en match officiel, donc qualif mondial, c'est 25 buts. Voilà, c'est des stats et des ratios qu'on peut même plus qualifier là, tellement c'est au-delà de tout ce qu'on a connu dans l'histoire du foot.
Duel avec Marquinhos et Gabriel également pour Haaland.
Gabriel qui connaît parfaitement, parce que lui et Saliba, à chaque fois, ils se les coltinent. C'est quand même très très dur à chaque fois de se taper les deux.
Brésil-Norvège, ça démarre dans 30 minutes désormais. Je voulais qu'on écoute également le sélectionneur Solbakken, Aurélien, que tu as vu en conférence de presse. Tu l'as interrogé, vous l'avez interrogé sur le rapport de force, comment il envisage d'affronter le Brésil, sélection mythique évidemment, 5 Coupes du Monde en 8e de finale d'un mondial. Écoutez-le.
Je ne dirais pas qu'ils sont les grands favoris contre nous comme cela aurait pu être le cas il y a quelques années. Maintenant, nous sommes sur une super série depuis longtemps. On est est confiant, on joue bien avec le ballon. On peut faire mal au Brésil dans un bon jour, mais il faudra être à notre meilleur niveau. Sinon, on n'aura aucune chance. Si on est à notre meilleur niveau, alors c'est possible.
Il le dit, hein, il le dit. Ils ne seront pas grands favoris de ce duel-là. Il assume également, Solbakken, Aurélien.
Ah bah oui, il a raison de toute façon, parce que la Norvège déjà est invaincue dans son histoire contre le Brésil. C'est assez rigolo de le noter, parce que c'est le seul pays au monde.
Il y a quoi, il y en a que 98 là.
Il y en a que 4, et le dernier, effectivement, il y a eu un amical aussi en 2006. Donc on sait que ça repose sur pas grand chose, mais c'est une fierté de la Norvège, parce que le Norvège-Brésil de 98, c'est le plus grand événement collectif sportif des Norvégiens. C'est ce qu'ils me disaient hier, en tout cas. C'est le moment où ils ont le plus kiffé dans leur histoire. Et ça te met un peu plus de vent dans le dos à l'arrivée. Eux sont confiants, eux ils disent, de toute façon la pression elle est totalement sur les épaules des Brésiliens, nous on a déjà réussi notre Coupe du Monde, et en face ils connaissent aussi la statistique, et c'est pour ça qu'ils sont très respectueux envers la Norvège. Donc Ståle Solbakken, il est intelligent, il sait qu'il a une excellente équipe, il le dit, mais il laisse quand même 52% de pression sur les épaules des Brésiliens.
Et puis on l'a dit, il y a une gestion, Daniel, tu l'as mentionné tout à l'heure, l'équipe B contre l'équipe de France. On a des mecs relativement frais là qui vont se pointer face au Brésil, qui a dû lutter longtemps pour venir à bout du Japon. Ça peut être une donnée importante
une
aujourd'hui.
Bagarre, j'attends justement des Norvégiens, parce que c'est également comme ça qu'ils pourront bien faire ce soir et s'en sortir, c'est en leur mettant une grosse pression. Les Brésiliens n'ont pas été. Il y a eu la première demi-heure contre le Maroc, ils se sont fait manger en termes de jeu, et il n'y a pas eu après une grosse intensité proposée aux Brésiliens. Je pense qu'ils peuvent souffrir au milieu, surtout avec le choix qui est fait par Carlo ce soir de mettre Martinelli dans une sorte de position de 10. Quoi,
j'ai pas la vision moi de ça.
Mais on va essayer de voir un peu ce que ça va donner. Mais en tout cas, il est clair qu'il y a deux joueurs réellement qui vont être devant la défense, quoi, ou qui a un profil pour défendre. Le reste, j'ai l'impression que le choix est audacieux.
Après, Bruno Guimarães a fait un super match contre le Japon, notamment une grande deuxième mi-temps.
Ça reste audacieux, mais le choix avec les quatre défenseurs, le milieu, les quatre devant, c'est sans habitude en plus. On a l'impression que ce Brésil, il n'y a rien qui est travaillé, il n'y a pas de tactique préétablie. On y va comme ça, avec la confiance que Ancelotti
et puis Vini fait l'exploit.
Et après, si Vinicius veut nous faire l'accélération, crochet extérieur, frappe enroulé. Bon, on voit si ça passe, quoi. Ouais.
Et puis, je pense, le chaos footballistique, avec, même s'ils seront menés, l'espèce de 1 partout qui va permettre à Vini un peu d'enflammer le stade et de rentrer dans une zone où, un peu comme le Japon, où la Norvège peut être en grande difficulté. Maintenant, je suis d'accord, moi, sur le milieu de terrain, notamment avec Odegaard et Berg, à 3, t'as vraiment, avec les deux Berg, parce qu'il y a Berge et Berg, je sais pas si on prononce de la bonne façon, mais ils seront en supériorité numérique, en tout cas au milieu de terrain, et on l'a vu notamment avec le Portugal contre la Croatie. Quand t'as les lignes aussi distantes, tu peux être en difficulté. Et moi, j'ai beaucoup apprécié la gestion de la fin de match de la Norvège contre la Côte d'Ivoire, où ils ont un peu congelé le ballon et ils ont fait sortir les Ivoiriens quand il le fallait. Et ils ont de la qualité technique au milieu de terrain. Ils ont des ailiers avec Moussa qui peut être un vrai merdier. Et ils ont de la présence dans la surface avec les deux devant, la Sorloth et Alan Sorloth, qui est un peu utilisé différemment sur cette Coupe du Monde. Il est un peu sur le côté, mais il rentre dans l'axe sur les centres du latéral. Ils peuvent mettre en difficulté cette équipe du Brésil, mais pour moi ça reste quand même, allez, on va dire 55-45 côté Brésil par rapport à la force. Mais c'est pas que football, tu sais, dans cette compétition, Nico, il y a aussi l'histoire. C'est un peu comme on me disait, le Maroc, c'est pas un exploit de gagner contre le Brésil. Ouais, mais même un Brésil diminué, les sortir en Coupe du Monde, faut les sortir, les gars.
Ça reste le maillot, ça reste les couleurs.
Quand tu mènes 1-0 contre le Brésil, ce soir va falloir voir comment la Norvège va se comporter. Tu vois, quand c'est le serving force de championship, quoi, c'est à un moment donné comment tu
ça fait le bras qui tremble, voilà, le pied qui tremble,
et ça reste les 5 étoiles, qu'on le veuille ou non. C'est le Brésil.
On fait une pause,
voilà.
Dans un instant, on va rappeler la compo quand même. Ça s'approche, ce match, ce duel attendu dans moins de 25 minutes désormais, 8e de finale de Coupe du Monde. Brésil-Norvège. Restez avec nous, avec Daniel Riello. Vous les déchargez, vous écoutez RMC et vous regardez l'intégrale, l'Afterfoot intégrale Coupe du Monde sur Afterfoot TV et la chaîne YouTube de l'After. A tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Avec Daniel Riello, avec Willy Dacharchour, on est ensemble, bien sûr, jusqu'au bout de la nuit. Et vous le savez, les nuits américaines de l'Afterfoot. Merci d'être aussi nombreux également sur la chaîne YouTube. On se régale jusqu'au bout de la nuit. Vous êtes parfois 7, 8, 10 000 à nous suivre. On est hyper touchés par votre fidélité également. Là on est 3000, vous serez de plus en plus au fur et à mesure qu'on va se rapprocher du match. Dans le débrief, Daniel sera là d'ailleurs pour débriefer. Ce sera bien là, Daniel, hein, pour
débriefer. Minuit, une heure du mat, absolument.
Minuit, une heure du mat, exactement. on aura la chance de vivre ce match en intégralité sur RMC. Tiens les amis, vous avez un petit message perso, un gros bisou de Eddy.
Ah. Voilà. On l'embrasse aussi.
Pourquoi il est là, studio, il est au studio Eddy.
Non, mais il vous écoute, il se marre.
Quand même. Une grosse dédicace pour Eddy parce qu'il nous aura accompagné dans ce voyage de manière parfaite. Si New York a été aussi doux, c'est grâce à
Eddy.
C'est
un frérot, hein.
C'est un vrai frérot, comme il dit, c'est un vrai frérot.
Je sais pas, il me propose de venir en scooter au stade, mais bon, je vais pas abuser quand même, la gentillesse d'Eddy.
En fait, c'est extraordinaire, Nico, parce que lui, il veut abuser de personne, à la fin, il abuse. Non, mais c'est extraordinaire. Mais à la fin, il abuse. Non, je veux pas abuser sa gentillesse. Il est dans son scooter dans 15 minutes.
Oui, c'est une petite info là que nous envoie Edgar Grelot qui sera au commentaire du Mexique-Angleterre ce soir. Il nous dit les supporters mexicains sont venus par milliers lancer des feux d'artifice devant l'hôtel des Anglais quoi.
Non mais tout à l'heure on a parlé, mais ce match là hier on a parlé de Bourbier pour l'équipe de France face au Paraguay, mais là le Mexique c'est le Bourbier. Il y aura la Quinta.
Bourbier
aura...
ça a une connotation sale alors que les Mexicains jouent très
bien.
Non mais quand je dis Bourbier c'est positif là pour le coup, c'est qu'il y aura la Grinta, la Gara, ce que tu veux, mais la qualité footballistique, l'intensité et puis surtout le fuego dans les tribunes. Mais je vois les images là sur les réseaux sociaux.
Mais tu vois, pour en revenir un petit peu au débat qu'on avait tout à l'heure. Le Mexique, le match est à domicile et tu viens de dire là, la brève passe comme ça vite fait, machin. Les supporters mexicains sont allés foutre le bordel devant l'hôtel. Tu sais. Bon, on pourrait très bien dire. Ah, ça se fait pas. C'est pas bien. C'est anti-sportif. C'est là. On en parlait tout à l'heure. La culture sudane.
Non, mais ça me dérange
football.
Pas moi. Ça me dérange pas pour le coup.
Ça pourrait être gêné de la même façon.
D'accord, mais ça là, ils mettent un peu la pression. Là, cela pour le coup, ça fait partie du folklore.
Là, c'est pas sur le terrain pour le coup.
Voilà, c'est pas le terrain.
Moi là, je suis d'accord. Ouais. C'est.
Non mais tant que c'est fait.
Qu'ils ont du foot. Bah, attends, parce que tu crois que les Mexicains, ils vont s'empêcher d'insulter les Anglais sur le terrain, de mettre les coups quand il faudra les mettre et tout.
Oui, mais en fait,
ils ont cette vision du foot. À l'inverse, je pourrais te dire, je vais tenter un cliché. Je vais tenter un cliché et Nico sera là pour me corriger sur le cliché. Tu vas être là. Par exemple, il y a en caractéristique culturelle qui pourrait gêner, moi qui me gêne pas, c'est comme ça. Par exemple, je trouve que les Japonais, les Coréens sont souvent encore un peu naïfs sur la gestion des fins de match ou ce genre de choses-là. Est-ce que ça vient?
Je veux dire qu'ils n'ont pas le vice que certains ont.
Voilà, c'est ça. Parfois dans le foot, tu gagnes avec du vice.
Ça peut
être un atout.
Mais il y a des particularismes. Il y a des particularismes, c'est vrai.
C'est pas vrai.
Il y a des particularismes.
Mais ils ont un rapport au règlement qui est plus honnête. Ils ont un rapport au règlement qui est plus honnête. Et moi, je le dis parce qu'en plus, je viens d'un pays qui est très marqué entre nord et sud, et où au sud, on a un rapport au règlement.
Oui, mais moi, j'ai un problème
qui est très très light par rapport au nord.
Sur le fait d'essentialiser les continents, c'est-à-dire.
Mais moi, je m'en fous d'essentialiser.
C'est-à-dire qu'on a des différences. Tu peux avoir des différences, mais c'est un peu le même débat sur Rudy Garcia qui a dit ces équipes-là où en fait, il peut avoir une ambiguïté. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait,
il n'a pas expliqué ce que vous voulez dire.
Non, mais globalement, ce que je vais expliquer, c'est que il y a du particularisme. Oui, il y a des sélections qui ont un ADN différent. Ça me dérange pas. Ben sauf qu'hier,
tout ce que
sauf qu'hier, ça a été exacerbé et ça a pas été réprimandé par un arbitre qui n'a pas fait son boulot. On peut juste le décrire. Si tu regardes bien, le Mexique ou la Colombie, pourquoi on parle d'eux depuis le début de la Coupe du Monde?
Parce que ça envoie et ça joue.
Par rapport au jeu, par rapport au
Mexique Équateur.
Oui.
Ça n'a pas envoyé pieds bien comme il faut.
Ça a pas envoyé.
Les insultes et tout, c'est pas parti dans tous les sens.
Mais par contre, t'as des phases de jeu où ça fait à toi, à moi, reprise de volée.
Allez, Walid et Kevin.
La première mi-temps du Mexique, pour moi, c'est la plus aboutie, toute équipe confondue depuis le début.
Mais on nous ont régalé.
Allez, les amis, on parie sur le duel Brésil-Norvège.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et avec Christophe Lenné. Salut Christophe.
Un peu d'oseille.
Bonsoir Nico, bonsoir à tous.
Je crois que la cote de la Norvège est très élevée, Christophe.
4,40 effectivement,
wow.
La norvégienne. 3,75 la prolongation, donc le match nul. Et 1,76 la victoire de la Seleção, quintuple champion du monde. Je veux vous proposer la grosse cote.
La cote, elle est à 4.
Eh bien, j'y vais. 4,40. Ouais. Je veux sur la victoire de la Norvège.
4,40.
Je vais même te proposer, pour assurer le coup, la qualif de la Norvège à 3,05. C'est cadeau. Et Daniel, je te propose la Norvège avec le but d'Ivan Drago, alias Erling Haaland, à 5.
J'ai pas de cash, j'ai pas de
doublé de Vinicius à la 30e, toi, tu vas vite te refroidir.
Je prends.
Voilà pour les cotes. Tu fais quoi, les gars? Tu fais quoi, Walid, toi?
Moi, je suis sur la qualif du Brésil.
40, Walid.
Mais difficile.
Bon, ça t'a fait servir les leçons que t'as pris cette année.
Difficile.
Non, After sans flamme.
Difficile. Difficile, mais ils vont le faire. Et puis moi, je veux une Coupe du Monde avec le Brésil le plus loin possible quand même.
Ah voilà, ça y est, maintenant on met le petit affect.
Mais non, mais on a envie. La Coupe du Monde, c'est le Brésil.
T'as le droit d'avoir tes
points. Voilà,
et tu veux. Tu as parfaitement le droit.
Tu veux un Brésil-Mexique ou Angleterre si ça passe pour le Brésil?
Les deux mirons.
Les deux tirons.
Mais par contre, un Norvège-Mexique, je.
Ah, dis-moi, c'est le même qui à New York nous faisait le truc sur les petites équipes.
Mais s'il se qualifie, par contre, s'il se qualifie, je dirais jamais que la Norvège.
Je préfère mon aller, j'ai mes et je m'en vais.
S'il se qualifie, jamais je dirais la Norvège, on n'a rien à faire là. Jamais. Jamais.
Walid, j'ai trahi. Walid, t'as fait deux très bonnes heures et à la fin.
Le problème, c'est que Daniel, il ne comprend pas.
T'es en train de mal finir.
D'accord,
je finis sur trois doubles fautes. Tu fais un bon match, trois doubles fautes d'affilée, terminé. Défaite.
Pour terminer, sache quand même que Walid a peine rentré à Paris, il a fait un peu de shopping, il s'est acheté une petite chemise là. Cet été, cette chemise, à mon avis, elle est utilisée que dans les grandes soirées.
Ouais, ça, on n'entend pas soirée, mais
les dîners,
les escarpins aussi qu'il a sorti à New York. Magnifique.
Là, je peux te dire qu'il a envoyé du lourd.
Ah ouais, je suis accompagné.
Merci Daniel, merci Walid. Dans un instant, Brésil-Norvège.
Ciao.
En intégrale avec Gilbert Bribois.
C'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
À venir donc cet énorme Brésil-Norvège. 8e de finale de Coupe du Monde. Grande soirée foot, Coupe du Monde sur RMC dans l'after. Mexique-Angleterre dans la foule à 2h du matin. On est là jusqu'au bout de la nuit. Restez avec nous sur RMC.